Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1, cette semaine consacrée au Grand Prix d'Abu Dhabi à Yas Marina. Pour m'accompagner ce soir exceptionnellement, nous n'aurons pas Dino, mais je suis quand même accompagné de chroniqueurs exceptionnels. Bonsoir Gus Gus.
Bonsoir.
Bonsoir Ben.
Bonsoir.
Ah, messieurs, comme d'habitude, qu'avez-vous pensé de la course ?
Tout de suite, quand il y a moins d'enjeux au niveau championnat et qui s'est pas fait, c'est un peu plus plan-plan à regarder. Mais bon, c'était pas non plus une course inintéressante du fait des stratégies qui étaient un peu différentes. Donc, course, moyenne.
Ouais.
C'est-à-dire que même si le championnat avait dû jouer là, les enjeux étaient vite balayés.
Oui.
Hein, parce que vu l'écart de Vettel. Après, derrière, c'est vrai qu'il s'est passé des choses. Pas toujours des choses, des bonnes choses, mais
plus,
il s'est passé
plus
des choses.
Dans le paddock autour des commissaires et des hospitalités des écuries sur la piste.
Ah oui. Ouais, non, c'était intéressant ce week-end.
Ah, au niveau actuel, il s'est passé.
Oui,
des choses,
oui,
ça,
oui,
clair.
Il s'est passé des choses. Et messieurs, vous souvenez-vous de la date que nous étions ce dimanche?
Le 3 novembre.
Oui. Et même si Dino n'est pas là, ça veut dire quand même que vous avez de la chance, le grand champion de l'éphéméride n'est pas là.
On va avoir un éphéméride de 25 minutes.
L'émission va durer 3 heures de plus.
Mais non. Allez, tout de suite l'éphéméride.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Ah, alors Dino qui est sur le chat dit qu'il joue contre les auditeurs parce qu'il nous écoute quand même. On va voir si même à l'écrit c'est un champion.
Mais alors j'en ai parlé avec lui la semaine dernière. A priori, il a fait un pari, je sais plus avec qui, mais que il a pris 3 sujets et il voit si parce qu'il a vu les dates sur Wikipédia et autres. Et il essaye de voir s'il arrive à deviner ce que tu vas prendre comme sujet, en fait.
Peut-être, oui. Je l'ai vu pendant le courant de la semaine et en effet, il avait de bonnes idées. Messieurs, le chiffre de la semaine est 150 000.
C'est un chiffre exact ou approximatif ?
C'est approximatif.
On a le chiffre exact ou alors c'est...
Non.
Non, donc c'est pas toi qui as arrondi pour...
Non, c'est une estimation globale, on va dire.
C'est une estimation qui concerne toute la planète ou un pays en particulier, une région ?
On peut dire un pays.
Un pays.
Même si ça ne se raccroche pas à un pays. C'est pas une donnée mondiale, c'est pas comme la dernière fois.
D'accord.
Ça concerne pas un pays en particulier, plus une région alors ?
On peut dire que c'est situé dans un pays en particulier. Mais la donnée en elle-même ne concerne pas une région ou un pays.
C'est un nombre de quelque chose ?
Oui.
Ce sont des objets manufacturés ? On enfile les perles comme ça.
Alors oui, Dino, je sais, c'est l'estimation de Chili, c'est pas de ma faute, c'est des chiffres estimés. Hein. J'aurais aimé avoir le chiffre exact, mais il n'existe pas. Donc, tu disais c'était des produits manufacturés ?
Oui, un classique.
Oui, c'est fait de la main de l'homme, oui.
Donc c'est
150. Est-ce que le chimilibilique est gros ?
Ça représente beaucoup, en tout cas.
Oui, mais est-ce qu'à l'unité, c'est gros ou...
Je dirais que oui, même si j'ai du mal à me rendre compte de la taille que ça peut faire. Mais ça doit faire pas mal, en effet.
C'est quelque chose de volumineux ?
À la base, non, mais là, il y en a 150 000, donc forcément...
D'accord. Donc c'est une espèce de rassemblement où on a fait un record, on a rassemblé 150 000 objets identiques, et ça constitue une espèce de record, quoi.
Non, c'est pas ça, c'est quelque chose qui, au total, ça fait 150 000.
150 000 trucs bout à bout fait un gros truc.
Ah bah oui, je suppose, oui.
Genre la distance de la Terre à la Lune ou...
Mais voilà, mais personne n'a vu les 150 000, hein, en
pas
un seul...
Pas en même temps, ils ont pas été rassemblés, d'accord,
non.
Dans un cadre spatio-temporel.
Je peux vous dire que c'est 150 000 sur un peu plus de 40 ans.
Ok, donc on a commencé à observer à une date précise, on a commencé à compter à zéro, et au bout de 40 ans, c'était à 150 000.
Oui, quand ça s'est terminé, ça faisait, oui, environ un peu plus de 150 000.
Donc c'est terminé, ça n'évoluera plus.
Ah oui, non, ça ne plus.
Ça s'est terminé il y a longtemps.
En 1989.
Donc ça a commencé en 49.
À peu près 46 pour être précis.
Mm-hmm.
Ce ne sont pas les slips à Fab, Mike, sur le chat. Et non, Dino, ce n'est pas le nombre de cheveux qui manque à Elder. Enfin, peut-être, mais je ne sais pas.
On salue son perruquier. Donc, entre 46 et 89, il y en a eu 150 000. Mm. Et donc, tu dis, il n'y en aura plus, c'est terminé. Ça reste bloqué
ah,
à 150 000.
Depuis 89, non, il ne peut plus y en avoir.
Ah, attends, c'est un rapport avec le bloc de l'Ouest, le communisme ?
Non. Ce n'est pas le salaire de Max Chilton en rouble, ni le nombre de trabans fabriqués.
Hop, ça concordait à peu près. Avec l'Allemagne de l'Est, alors ?
Ah, pas du tout. Ça ne concerne pas le bloc communiste.
Donc c'est pas un truc sur le mur de Berlin ou...
Pas du tout.
Ça concordait pourtant avec les dates à peu
ça,
près.
Ça, oui, c'est vrai que la date concorde, mais...
Enfin, le but du mur de Berlin, c'est les années 60, en même temps.
Alors, je peux vous dire que... En fait, ça concerne une personne qui est décédée en 1989 à l'âge de 60 ans. Pour vous donner un peu une idée.
Voilà. Donc elle avait 17 ans quand ça a commencé.
Oui, oui, à peu près, il a commencé relativement jeune.
C'est un nombre d'œuvres ?
Ça touche aux œuvres, en effet, mais c'est pas exactement le c'est pas un nombre d'œuvres, mais ça touche à cet ordre d'idées.
C'est artistique quand même.
Ah, c'est artistique.
C'est artistique. Il est mort en 89. Et donc 150 000, ça a un rapport avec l'œuvre de ce monsieur ou de cette dame.
Ah oui, oui.
C'est un nombre de tableaux, un nombre de...
C'est pas les tableaux.
Des litres de peinture.
C'est pas les litres de peinture.
C'est des livres.
Ça concerne les livres.
Ah, c'est des pages?
C'est des pages. 150 000 pages.
Ah non, qui ça peut être?
C'est ouais.
Quelqu'un qui a eu le prix Goncourt?
Non.
Parce qu'on est dans la période.
Un prix donc c'est Nobel, pas 150 000 pages d'un coup.
Non.
C'est si tu additionnes, bah il a écrit plusieurs bouquins et si tu additionnes, ça fait ce.
C'est une seule et même personne par contre.
Ah oui, c'est une seule et même personne qui a fait 150 000 pages. C'est énorme, 150 000 pages.
Oui, j'avoue.
C'est quelqu'un qui aurait été détenu quelque part pendant de longues années et qui raconte son
non. Non non.
Un Robinson Crusoe?
Non.
C'est les bouquins ont des rapports entre eux ou absolument pas?
Certains oui. Ont des rapports entre eux, mais d'autres non.
Mais c'est-à-dire que c'est pas le premier, c'est pas le début, et le dernier, c'est pas la fin.
Ah non, pas du tout, non.
On sait jamais.
C'est très connu, j'imagine.
Non. Si tu connais le sujet dont ça parle, oui. Et SKH sur le chat, oui, tu approches.
Mais c'est pas quelqu'un que forcément qu'on érige en référence dans son domaine, quoi. Enfin, genre.
Si. C'est même un dieu dans son domaine.
Ah, c'est genre Tolkien ou.
C'est ce genre d'idée.
D'accord. Vu ma culture, de ce niveau, c'est mort.
Bon. Je vais pas vous demander forcément le nom, parce que si vous ne connaissez pas le sujet, vous n'allez pas forcément connaître le nom, mais savoir dans quel domaine.
C'est-à-dire que les bouquins traitent quand même tous d'un même sujet, ou...
Non, pas forcément. Alors, sur le
c'est
chat...
C'est un style particulier, ça peut être tous des thrillers...
Alors, il y a énormément de styles, c'est ça qui est incroyable, en plus. Sur le chat, en fait, vous êtes pas sur la bonne nationalité. Et non, Dino, je ne vais pas faire 45 minutes de développement.
Surtout vu le temps qu'on met à trouver.
Oui.
C'est ça. Pourtant, on essaye. Hein.
Ah, ouais,
d'après vous, quel type d'auteur ça peut être? 150 000 pages.
Du fantastique ou de la science-fiction ou...
Ça, c'est des genres.
Ah oui, d'accord. Mm. Oui, là, j'imagine qu'il fait pas des nouvelles.
Bravo, SKH, sur le chat. Vous avez été battu par le chat.
Bon, en même temps, Dino n'étant pas là... Enfin, déjà, c'est bien que ce soit pas lui qui nous batte, mais...
Non, mais je pense que Dino le sait, mais qu'il le dit pas pour pas spoiler les gens.
Dino demande s'il a été adapté au cinéma. Oui, pas mal de fois, mais vu qu'ils ne savent pas forcément qui c'est précisément, ça ne peut pas forcément leur parler.
Et ça rajoutant du cinéma là-dessus.
C'est exactement le mot que j'attends d'eux, en fait. Parce que je me doute bien qu'ils vont pas forcément trouver le...
Ah, le mot de la fin, déjà?
Est-ce que l'auteur est français?
Non. Mais la nationalité peut grandement aider.
Est-ce que l'auteur parle français? Est francophone?
Je ne sais pas. Il n'est pas francophone.
C'est plutôt nordique ou...
Pas du tout.
Il est anglais?
Non.
Il parle anglais? Est-ce que tu sais la langue qu'il parle?
Oui, je sais la langue qu'il parle. Ça, y a pas de souci.
C'est asiatique, c'est japonais?
C'est japonais.
Ah, c'est un des mangas,
bah
alors.
Là, foutre, si on tombe dans les mangas, voilà.
C'est moi, Dragon Ball.
Mais, non! Non!
Non?
Moi, si, c'est, je capitule, moi.
Bon, allez, je vais peut-être te l'accorder parce que t'as trouvé que c'est les mangas et que si tu connais pas les mangas, on connaît pas forcément cette
Ouais,
personne.
j'en ai lu deux, trois, mais...
Hein, voilà. Puisqu'en effet, le 3 novembre 1928, naissait Osamu Tezuka, le dieu du manga.
À tes souhaits.
Oui.
Est-ce qu'il est vénéré par Lewis Hamilton?
Si Lewis Hamilton aime les mangas, sans doute.
Non, mais c'est pour savoir. Parce que je pense qu'il est un deuxième chien. Tout le monde s'en fout, mais je crois qu'il a un deuxième chien. Coco, il
Donc oui, et faut bien comprendre que le terme de dieu du manga n'est pas usurpé parce que sans Osamu Tezuka, il n'y a pas de manga aujourd'hui. Il y a tous les mangas que vous voyez en librairie, en dessin animé, sans lui, ça n'existerait pas parce qu'il a tout simplement défini le manga moderne. Il y avait déjà des bandes dessinées avant au Japon, mais c'est lui qui a apporté en fait les caractéristiques modernes du manga. Les héros de manga ont des grands yeux, eh bien c'est lui le premier qui a mis des grands yeux aux personnages de manga parce qu'il adorait dans sa jeunesse, en tout cas assez jeune, les personnages de Disney. Disney lui a bien rendu, mais ça c'est une autre histoire. Et donc c'est pour ça que dans ses bandes dessinées, il a mis des grands yeux parce que des grands yeux, ça aide à l'expressivité. C'est lui qui a apporté à la bande dessinée et au manga japonais les techniques du cinéma, le découpage en cases, l'intégration d'onomatopées, tout ça, c'est lui. Il a aussi été précurseur au terme des séries d'animation. Il a créé son propre studio d'animation pour adapter ses propres œuvres. Et c'est donc son studio qui a sorti en 1963 le premier dessin animé hebdomadaire pour un manga. En 65, c'est aussi son studio qui a proposé le premier dessin animé en couleur. Parce que oui, au début, ils étaient aussi en noir et blanc. Avec toutes les techniques d'animation propres à la production en dessin animé, parce que produire une vingtaine de minutes de programme par semaine, c'est extrêmement compliqué.
Oui.
Dès les années 50, il s'est entouré d'assistants, ce qui est aujourd'hui une règle d'or quasiment. Enfin, tous les mangakas actuels ont des assistants hein, pour faire leurs œuvres et fournir leurs 20 pages hebdomadaires. Bah lui, dès les années 50, il l'a fait. Donc rôle primordial de précurseur, et puis après, il y a toute son œuvre. Alors je l'ai dit, enfin vous l'avez trouvé, hein, 150 000 pages, 700 œuvres, dans des styles extrêmement variés, que ce soit de la bande dessinée dit shonen, hein, dès le début, il y a le fameux Astro Boy qui a été son premier méga hit, Le Roi Léo, dont s'est bien inspiré Walt Disney. Plus tard, il a écrit des œuvres dites seinen, beaucoup plus matures, comme Black Jack. Il a fait de la SF, il a fait de la fantasy, du fantastique, du drame historique. Il a touché à tous les styles et avec un niveau de qualité, il a fait, par exemple, une autobiographie de Bouddha en manga.
Ah ouais.
Et jusqu'à sa mort, parce qu'il a dessiné jusqu'à sa mort, ses derniers projets, en fait, c'était un manga sur Beethoven.
Ah, carrément.
Beethoven, voilà.
Remarque qu'il y a bien Alexandre Astier qui fait un spectacle sur Bach.
Sur Bach, et il préparait un long métrage d'animation sur la vie de Jésus, et la
Ah,
Bible.
carrément.
Ah oui.
La Passion du Christ en version manga.
SKH cite aussi Black Jack, un de ses mangas extrêmement connus des années 70. En plus, c'est un médecin, il faut savoir que Tezuka a fait des études de médecine. Il est extrêmement prolifique. C'est vraiment un auteur qu'on ne peut que conseiller, même aux gens qui ne sont pas forcément fans de manga, parce que il peut y avoir des gens qui sont fans de BD, mais bon, les trucs avec des super guerriers et tout ça. Alors oui, auditeur 71, j'aime Wikipédia, mais j'aime aussi ma biographie en 250 pages d'Osamu Tezuka.
Voilà, bien fait.
Non, mais c'est vrai que j'ai aussi vu des trucs sur Wikipédia quand même pour synthétiser. Oui, là, t'as raison, SK, je dis autobiographie, mais non, c'est une biographie de Bouddha. À moins que Bouddha ait parlé à Tezuka. Il a peut-être parlé à l'oreille de Tezuka pour écrire
Oui.
sa vie. Mais non, c'est à conseiller. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que souvent les trucs, les mangas un peu rétro, ça se vend pas forcément super bien et c'est parfois un petit peu difficile à trouver en librairie notamment. Mais il y a énormément d'œuvres et en plus il y a beaucoup d'œuvres qui sont en 1, 2, 3, 4 volumes. C'est vraiment des histoires pas trop longues, quoi. Vous vous embarquez pas dans un truc de 72 tomes, quoi.
Ouais.
Sauf si tu veux te faire l'intégrale.
Ah bah si tu veux te faire l'intégrale, il y en a plus que pour 72 tomes, hein. Et donc, voilà, hyper prolifique. 150 000 pages, je sais même pas si c'est comparable, enfin, s'il y a un auteur, en tout cas, ne serait-ce que de manga qui est comparable, quoi, en termes de production,
Oui, c'est sûr que c'est pas en plus comparable à de la production écrite, dire on peut pas comparer avec Jules Verne, Victor Hugo, Balzac, etc. Quoi.
Et donc voilà, sur une carrière de 40 ans à peu près.
Oui, là, c'était un bien bel éphéméride, Gigi.
Mais alors, en F1, qu'est-ce qui s'est donc passé un 3 novembre ? Eh bien, en termes de naissance, on peut citer la naissance de Helmut Koenig, qui n'est pas très connu, il n'a pas eu une très longue carrière, malheureusement, en F1, mais souvenez-vous qu'on avait un petit peu évoqué quand on avait parlé du film Rush.
Oui.
Voilà, parce que malheureusement, il était décédé durant le Grand Prix des États-Unis. Sinon, côté Grand Prix, alors, c'est forcément, il y a eu des Grands Prix, hein, 3 novembre, et il y a eu des
titres. Abu Dhabi 2013.
Oui, mais il n'y a pas eu qu'Abu Dhabi 2013. Il y a eu, par exemple, le Grand Prix du Mexique 1968, qui a vu titrer Graham Hill et Lotus. Mm-hmm. Et sinon, on a quelques titres du côté de chez McLaren. Par exemple, le Grand Prix d'Australie 1985, où McLaren avait gagné le titre constructeur, après le titre pilote. C'est aussi, d'ailleurs, le dernier Grand Prix de Niki Lauda. Et le Grand Prix d'Australie est la 5e et dernière victoire de Keke Rosberg.
Ah oui, 5 victoires quand même, il s'est pas fait chier le bout.
Oui, oui, c'est c'est les fameux stats de Keke Rosberg, quoi.
C'est vrai.
Et aussi, il y a le Grand Prix d'Australie 1991.
Ah oui, la course de 50 km.
Voilà. Qui avait vu aussi un titre pour McLaren.
Ah, donc, la fameuse date de fin d'année où il n'y a pas énormément de choses, quoi.
Oui. Bah, là, je, très honnêtement, je pense que sur les deux derniers Grands Prix, il n'y a plus rien.
Oui.
Il n'y aura rien. La partie fin de l'éphéméride, il n'y a pas de partie fin de l'éphéméride les prochaines fois. Messieurs, je vous propose de passer à l'actu. Parce que, alors, on aurait pu préparer un lupalu, un peu pour faire plaisir à Dino, mais, comme on est un peu feignasse, hein, faut bien le dire, hein.
Oui.
On n'avait pas forcément le temps, on n'a pas fait un lupalu. Mais il y avait
déjà,
quand même.
On est que trois.
Alors,
c'est déjà qu'on a, il a fallu travailler pour se réunir, pour réunir trois personnes, alors.
C'est ça, quoi. On a pris les fonds de tiroir, hein.
C'est clair.
Mais on peut quand même parler de l'actu. Parce que il y a quand même des actus qui ont survolé le paddock, hein. Et on peut parler de, je vais dire plus que l'affaire Raikkonen, c'est l'affaire Lotus, parce que, pour le coup, avec ce qu'on a appris au cours du week-end, il y a aussi beaucoup de choses pour l'avenir de Lotus. Hein, donc, qui a commencé avec une absence remarquée. À chaque fois qu'il vient de jeudi, ça se remarque, hein, quand même.
Ouais,
hein.
Mais ça devient, justement, ça devient de plus en plus fréquent, donc ça devient de moins en moins surprenant, quoi.
Surprenant. Donc, il est venu, hein, il est venu, mais en disant que, bon, il avait failli pas venir, il a menacé de pas venir pour le Austin et pour Interlagos, et finalement, les choses se finissent bien. Non, Totor. Alors que tu cites Quantum, ok, mais que tu cites Quantum of Solace, là, c'est moins bien.
Je ne connais pas ce film. En tant que très bon fan de James Bond, je ne connais pas ce film.
Non, c'est Skyfall, la suite de Casino Royale. C'est, laissez voilà.
Mais de toute façon, dès avant le départ de la course, il y avait déjà l'info comme quoi Raikkonen allait rouler pour les deux derniers Grands Prix qui circulaient, comme quoi il y avait un accord de trouver. Donc forcément, qui dit accord financier, et qui dit accord financier dit que Lotus a de l'argent.
Parce qu'on peut le dire, hein, limite, c'est pas Lotus qui va payer Raikkonen,
c'est Quantum. Mais en fait, Quantum, ils vont déjà devoir investir, sortir le chéquier et pas le petit, avant même de mettre de l'argent utile, parce qu'ils vont devoir rembourser les dettes, quoi.
Et passif, tout le passif. Raikkonen, qui n'était que, apparemment, parce que je t'ai pas entendu Boulier le réfuter, qui n'était pas payé quand même depuis le mois de mars.
C'est fou, hein.
Ouais.
Ça
ouais.
Fait
parce
quelque chose comme.
Après, Boulier a dit oui, on confirme qu'il y a eu des soucis d'argent qui sont connus parce que bon, voilà, tout le monde en parlait, mais il a pas dit. Enfin, il a pas dit que Kimi racontait des cracks, donc c'est qu'a priori vraiment, il n'a pas été payé depuis mars, même s'il est pas à plaindre, hein, ça, y a pas de souci.
Oui, parce qu'il vaut mieux mettre les 12 ou 13 millions de salaire de Raikkonen sur le développement de la voiture.
La voiture, oui. Mm.
Mm. Ce qui fait que du coup, ils doivent encore plus d'argent à Raikkonen, parce que la voiture est bonne, donc il marque plus de points.
Oui.
C'est un cercle vicieux, la Formule 1. Non, après, mais bah, enfin voilà, la bonne nouvelle, c'est que bon, voilà, a priori, même si c'est pas encore officiel, venant de Lotus, c'est fait.
Oulier était plus prudent que Quantum, visiblement, sur le coup.
Oui, du coup de Quantum, c'est fait.
Ouais.
C'est fait, et puis il faut que ce soit urgentement fait avec Hülkenberg, et, alors qu'apparemment, c'est Antoine Arlault qui le disait sur Twitter aujourd'hui, mardi, que pour l'instant, il y a 0 € de versé de la part de Quantum, quoi.
Oui, c'est ça. C'est que des engagements, apparemment.
Oui.
Et par contre, c'est vrai.
Il y a des options dans l'accord qui font que Quantum pourrait racheter complètement l'écurie à Genie.
Ah oui, parce que là on parle de 35% hein, ouais. Pour l'instant.
Donc 35% déjà... initialement, ouais, avec voilà. La possibilité d'acquérir alors peut-être pas le reste parce qu'il y a des petits investisseurs qui ont 2 ou 3% je crois.
Et peut-être passer majoritaire.
Oui voilà, par exemple. C'est ça. Donc prendre le contrôle total au conseil d'administration. Ouais, le fameux conseil d'administration qui doit encore ratifier le contrat de Grosjean et probablement
Hülkenberg. Ça aussi, voilà, c'est le entre guillemets l'autre bon côté, c'est pour Hülkenberg, c'est que le ciel s'éclaire quand même pour Hülkenberg parce que il attendait et ça va faire long.
Ouais, c'est pas un ultimatum qu'il avait mis, mais bon, il aurait préféré, ouais. C'est sûr, être prêt avant fin octobre, quoi. Bon, là, ça va le retarder d'une semaine, mais bon, voilà.
D'ailleurs, Oasis cite voilà, le Quantum F1 Team, peut-être qu'à terme, s'ils sont actionnaires majoritaires, parce qu'ils empruntent aussi, entre guillemets, bon, à zéro argent le nom Lotus. Peut-être
ouais, mais c'est plutôt l'inverse. C'est Lotus qui leur prête, enfin qui le,
oui.
Qui ne paye pas le contrat de sponsoring avec
oui.
Avec. C'est pour ça que moi je milite pour que effectivement ils changent de nom, parce que le nom Lotus déjà avec les problèmes avec Caterham, enfin ce qui s'appelle le Caterham maintenant, le broglio autour du nom Lotus, déjà ça m'avait franchement échaudé. Alors quand j'ai appris, ça fait un an et demi qu'on le sait ça que Lotus avait revu son contrat avec l'écurie de Genie hein, qui appartient à Genie pour ne plus payer enfin son le naming de l'écurie, enfin j'étais vraiment sûr vraiment
après malgré ça ils ont pas l'usage du nom Lotus ad vitam aeternam hein,
non je crois qu'en fait ils avaient un contrat
voilà en 2017 je crois donc c'est
ouais. Et que Lotus a dit vous avez bon, on paye plus mais enfin il y a plus de paiement etc mais vous avez le droit d'utiliser le nom quand même
oui voilà
en 2017 c'était vraiment très moyen de la part de Lotus mais c'est pas surprenant quand on voit ce qu'ils font ces derniers temps dans le sport automobile, que ce soit en IndyCar, en endurance, etc. Quoi.
Sinon, dans le paddock, on a eu encore une fois une petite phrase de Bernie, une petite phrase qui va peut-être soulager énormément d'équipes, puisque la probabilité de 22 courses l'an prochain semble s'éloigner. Hein.
Mais lesquelles vont sauter
Il a dit que probablement il n'y aurait pas de New Jersey, ce qui est quand même vachement inquiétant parce qu'ils ont quand même déjà eu un report.
Oui.
Et pas de Mexique. Mexique qui nécessite quand même beaucoup de travaux.
Sur le Mexique, c'est un peu ce qu'on avait dit, ça dépend des travaux.
Oui.
C'est surprenant.
C'est surtout une question de travaux, de construction du circuit, où encore une fois, il y a des soucis d'argent.
Je pense que c'est une question de timing, surtout pour le Mexique.
Mais tu prends par exemple pour le New Jersey, ils ont déjà eu un an en plus.
Pour le New Jersey, si on n'y va pas l'an prochain, on n'ira jamais.
Ah oui, je suis d'accord avec toi.
Je pense que ça va être mort. Non,
Grand Prix, je pense quand même que pour Bernie.
Dino ne nous écoute pas.
Voilà, bouge-toi les oreilles.
Bouge-toi les oreilles.
Je pense que pour Bernie, c'est quand même c'est un de ses rêves, je pense, de voir la F1 dans New York ou sa banlieue. Je pense qu'il sera plus conciliant avec le New Jersey qu'avec une autre course, parce que c'est un Grand Prix qui peut avoir un retentissement beaucoup plus important qu'un Grand Prix lambda en Inde, en Corée ou même à Abu Dhabi malgré les sommes que verse Abu Dhabi. Quoi. Je veux dire, on paye pas pour aller à Monaco. Et je pense que pour aller à New York, il leur fera pas beaucoup payer et il est prêt à leur faire des concessions.
Sachant que la Corée du Sud n'est pas assurée non plus, parce que là, bon, c'est clairement les problèmes financiers de la piste.
On croise les doigts.
Donc peut-être même qu'on va rester sur 19 courses l'an prochain, à moins qu'ils en profitent pour remettre l'Inde en dernière minute.
Le Grand Prix de France. Le Grand Prix de France à toutes les...
Alors, Lord Phoenix demande, Austin, ça devient quoi?
Bah, Austin, ça continue.
Bah, ça reste.
Ça reste, oui.
Ça reste, ouais.
Ça, l'un n'empêche pas l'autre.
Ouais, non,
de toute façon, à partir du moment où, quand Bernie veut deux courses dans le même pays, il sait y faire, hein. Grand Prix des États-Unis,
ouais,
Grand Prix des Amériques.
Grand, on peut avoir deux Grands Prix, sans aucun problème.
Puis c'est un marché important et qui est assez peu inexploré pour la F1.
Non, ouais. Ouais.
Il ferait deux Grands Prix en Belgique, ce serait pas pareil.
le Grand Prix
monsieur veut
de Wallonie et le Grand Prix,
La dernière fois, il était tout fier. Oui, la Belgique, on est en communion. Il veut deux grands prix en Belgique.
Non, mais je veux dire, voilà, les États-Unis, c'est un grand pays, donc tu peux en mettre deux facilement. Tu mets
oui.
En Belgique, ça n'a aucun sens. Même dans l'Allemagne, dans l'absolu.
Sinon, est-ce qu'il y a d'autres têtes actuelles qui ont circulé dans le paddock, qui vont interpeller ce week-end?
Bah, hier plus la possibilité du line-up McLaren.
Ah oui.
La piste Magnussen, qui est quand même assez étonnante parce qu'il devait rouler ici il y a 3 jours d'essai en GP2. Il devait rouler avec Dams, parce que c'est avec cette écurie-là qu'il a été champion en 3.5, et il a annulé au dernier moment. C'est quand même assez étonnant, et juste au même moment, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait remplacer Perez l'an prochain. Donc, une annonce devrait être faite prochainement.
Des rumeurs, c'est contradictoire, parce qu'on dit aussi que Perez pourrait être reconduit un an.
C'est ça. En fait, ce matin, c'était Magnussen, et
voilà.
Ce soir, c'est Perez.
Ce soir, c'est plutôt Perez.
Peut-être qu'on nous dit rien, mais il y aura 3 voitures par écurie l'année prochaine, tu vois.
Bah, il faut bien, hein, si les rêves de Red Bull, parce que vous avez vu, chez Red Bull, ouais, les petites équipes, qu'elles dégagent.
Ah
oui?
J'ai pas lu ça.
Oui, enfin, il a dit, que
si
les petites équipes,
ouais.
Si elles avaient pas d'argent, en gros, elles avaient pas de raison de rester, quoi.
C'est qui?
Il a même pas parlé des petites équipes, il a dit les écuries. C'est Matteo Schitt qui a dit ça. Si les équipes qui ont pas d'argent, elles n'ont en gros rien à foutre là, quoi. Qu'elles dégagent.
Ah ouais.
C'est sympathique.
Mais quand est-ce qu'ils donnent plus d'argent à Toro Rosso, du coup?
Je me suis dit exactement pareil.
C'est eux qui nous ont dit en début d'année qu'ils avaient donné autant d'argent à Toro Rosso qu'à Red Bull.
Mais ça, c'est pas forcément faux. Parce que Red Bull a beaucoup plus de sponsors que Toro Rosso. Donc, ils ont pas forcément besoin, pour combler le budget, de mettre autant de mettre beaucoup plus d'argent dans Red Bull que dans Toro Rosso. Toro Rosso, ils sont obligés de donner une grosse partie du budget parce que, Cepsa, c'est pas Infiniti, il y a beaucoup de petits sponsors chez Red Bull qui, mis bout à bout, apportent une grosse partie du budget. Et surtout, Red Bull, du fait de son rang de quadruple championne et de ses accords avec la FOM, gagne beaucoup plus d'argent que Toro Rosso en rétribution de ses résultats, quoi.
Et tiens, c'est Totor sur le chat, il a fait une remarque pertinente. Alors, Ben, toi, tu ne l'as peut-être pas vu, mais lors de l'émission d'avant Grand Prix de Canal...
Ah non, je ne l'ai pas vu.
Forcément, ils ont fait un reportage sur Lotus, sur la dure vie d'Éric Boullier, qui est vraiment compliqué en plus. Et à un moment... Ils vont, je sais plus, dans un bureau, enfin un endroit où il y a une réunion.
Ah oui, j'ai entendu parler de ça, j'ai
voilà.
Pas vu.
Et alors, devine qui y avait Ben. Sauf si t'as déjà lu le chat.
Ouais, j'ai vu Totor qui
voilà.
Parle de Gutiérrez.
Voilà, y avait Gutiérrez qui était en train de discuter avec les gens de Lotus.
Ouais. Ah oui, il veut leur vendre des terrains au Mexique.
Ça, c'était avant, tu vois. C'est comme Maldonado, c'était avant.
Et d'ailleurs, on sent bien que quand il y a la caméra qui rentre, ils se retournent tous et on sent bien qu'ils sont un peu gênés. C'était
peu
pas vraiment
ouais.
Le truc qui était prévu.
C'était pas forcément le bon moment.
Voilà.
Un peu comme quand on avait surpris Edmund Marco en train de signer un contrat avec Vergne, quoi. Il y avait eu des photos.
Non, mais je pourrais voir l'émission d'avant Grand Prix sur Canal, c'est en clair, donc je pourrais aller.
Moi aussi j'aurais pu, mais bon.
Mais je le fais pas, voilà. Je l'ai fait au début de saison, voir la gueule que ça avait. Pas que ça m'a déplu, mais je le fais plus.
c'est comme Formula One, au bout d'un moment on se lasse, quoi.
Oui.
Oui, bah de toute façon, moi Formula One, j'ai toujours dit que pour moi c'est une émission pour les gens qui n'ont pas vu la course, en fait. C'est pour les gens qui n'ont pas pris l'abonnement. Plus que pour les gens qui ont vraiment vu le Grand Prix.
Oui, c'est sûr.
Mais c'est bien aussi de faire des émissions pour ceux qui ne prennent pas l'abonnement. Hein.
Oui, c'est bien.
C'est pas une critique.
Messieurs, je vous propose de passer au week-end de course et de commencer par les qualifs. Cette semaine, nos deux guignols sont Adrian Sutil, 18e, et Gutiérrez, 17e.
Oui, enfin, Sutil est plus guignol que Gutiérrez, pour le coup, hein, parce que... Gutiérrez, il est un peu habitué.
Oui, bon.
Bien que chez Force India, il y a toujours une des deux qui se plante. Moi, c'est remarqué, on a souvent un qui fait une bonne qualif et l'autre qui reste planté.
Non, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas une Williams.
Oui.
Mais
ah,
ils
Williams,
ont pas été si mauvais, Williams.
Williams, il leur a fallu 16 grands prix et demi pour se rendre compte que les échappements à effet Coandan ne marchent pas. Bon. Logique, superbe. Bon travail. C'est quand même étonnant, quoi. Dans une écurie qui a quand même pas de Simons, on pourrait s'attendre, En plus, c'est même pas ça. Le pire, c'est qu'il découvre, en travaillant pour 2014, parce que dans 2014, il y aura plus ce genre d'échappement. Et, c'est en travaillant pour 2014, en mettant des échappements beaucoup plus classiques, que finalement, il se dit, mais tiens, mais ça marche pas mal, finalement.
On me dit dans l'oreillette que Ferrari veut recruter chez Williams.
Ah bon?
Parce qu'ils ont aussi apporté des nouveautés qui marchent pas encore. C'est
écoute, ah oui, Williams veut bien recruter chez Mercedes en ce moment, visiblement. Donc...
mais bon, on y reviendra sur mon Ferrari. Mais...
Et en Q2, eh bien, qui c'est qu'on trouve à la 15e et 16e place? Les Williams!
Les Williams quand même, oui. Ils sont jamais bien loin non plus.
Bottas 16e, Maldonado 15e, Jean-Ric Vergne 14e, Jenson Button 13, Di Resta 12 et Fernando Alonso 11e.
Ouais, là contre-performance pour le coup pour la qualif, hein. Surtout que Massa, il fait quand même Massa, il est.
Pardon, vas-y.
Massa, il fait
huitième.
Huitième, sur la.
Ouais, il part septième. Ça fait quoi la troisième fois d'affilée qu'il passe devant.
Non mais Massa est un homme libre maintenant.
Oui, non, mais en fait c'est le genre de statistique dont tout le monde se fout, mais ce qui est très drôle, c'est que chaque fois que t'en parles à Alonso, tu sens que ça l'énerve, donc les gens en reparlent encore plus.
Oui, donc ils appuient dessus. Ouais.
Voilà, il aurait au moins, enfin, il est pas loin du top 10, hein, ça joue pas grand chose, mais.
Puis la 11ème,
Q3, c'est décevant.
C'est souvent mieux que la 10ème place que tu peux choisir ta stratégie.
Oui, surtout que lui, au final, il est quand même parti 10ème, donc.
Oui.
Pour le coup,
mais pour
donc,
le coup,
voilà.
Que ça soit bien clair, dans ce cas-là, il peut quand même choisir, puisque de fait,
oui, hein.
Autant il était 11ème.
Ah oui,
bah,
oui.
De toute façon, c'est, bah, oui, puisqu'il participe pas à la Q3.
À la Q3, voilà.
Donc forcément, les règles de la Q2 s'appliquent, quoi.
Et en Q3, encore une fois, Lato Rosso de Ricardo, Sergio Perez 9e, Felipe Massa 8e, Romain Grosjean 7e, Nico Hülkenberg 6e, Kimi Raikkonen 5e autant.
Quel rétablissement.
Ouais. Lewis Hamilton 4e, Nico Rosberg 3 et waouh, Vettel n'a pas fait la pole. Puisque c'est Weber.
Il se préservait. Il s'est rattrapé le lendemain.
Ouais, fait une petite erreur, quoi. Dans le premier virage, en plus. Donc, c'est vraiment pas le virage. Ouais. C'est le truc où tu te traînes à faute comme un boulet sur tout le tour, quoi. Il faut que tu laisses ça de côté pour finir ton tour, pour pas t'énerver encore plus. Ça t'oblige à attaquer encore plus pour rattraper le truc, donc du coup.
Ouais, ça conditionne toute la suite, jusqu'à l'épingle, donc.
Seulement un dixième d'écart. Hein.
Ah, le fameux dixième qui manquait.
Voilà.
Parce qu'on l'oublie, mais finalement, tout au long de sa carrière, Weber, en qualification, n'a jamais été... déjà été quelqu'un considéré comme très bon en qualification. Je me souviens de qualification avec la Jaguar. Alors, certes, c'était du temps où il y avait des tours uniques, donc où c'était beaucoup plus aléatoire que maintenant. Mais quand même, Weber, ça n'a jamais été un manche en qualification. On a tendance à l'oublier. C'est en course où la comparaison avec Vettel était plus dans l'avantage de Vettel.
Oui.
Légèrement.
Légèrement.
Oh, chouïa, 30 secondes, rien.
Donc, à noter que par rapport au temps, donc, Bianchi a été rétrogradé de 5 places pour changement de boîte, et donc, Kimi Raikkonen a été exclu des qualifs pour avoir échoué au test de contrôle de flexibilité de son fond plat.
Ouais, bah le même problème que Grosjean en Hongrie.
Ouais.
Même explication de la part de Lotus, donc un vibreur, hein. Sauf que là,
sauf
bah, les
que là,
commissaires,
c'est pas passé.
Bah, c'est-à-dire que les commissaires ont estimé qu'ils avaient déjà eu un avertissement.
C'est ça le truc. Parce
et que donc, ça aurait dû être modifié.
Voilà, certains
ouais, ont ça,
logique et tout ça, mais.
Je me méfie de cette interprétation parce que ça, c'est franchement pas une interprétation officielle, c'est pas une information. C'est l'interprétation que se fait Autosport de la décision. Seulement quand on lit la décision de la FIA, ils disent juste, on n'est pas satisfait d'explication de Lotus, on ne pense pas que ce soit une casse de la pièce qui provoquer le problème. Après c'est Autosport qui interprète ça à sa sauce. Ils ont peut-être raison, j'en sais rien. Le fait est que beaucoup de sites ont repris l'info d'Autosport, l'interprétation d'Autosport comme une information, alors que c'est pas forcément le cas. C'est vraiment une interprétation d'Autosport parce que c'est bien indiqué dans l'article. Quand Autosport ils font leur propre truc à leur sauce, ils mettent Autosport understands. Autosport comprend que la décision est due à tel fait et tel fait. Donc moi je me fierais plutôt de cette interprétation. Après, Lotus nous dit quand même qu'il y a une décélération verticale de je sais plus combien de G autour de 20, donc il y a eu vraiment un choc.
Mmh.
Donc,
c'était la fête au G ce week-end, hein.
Oui. Mmh. Bah c'est elle-même. il a peut-être fait exactement la même chose qu'Alonso d'ailleurs. C'est dans le virage 3.
Ouais, bah oui. Mmh. Donc à noter que c'était la 13e pole position pour Mark Webber. Il écale Jack Brabham, c'est ça ?
Ouais.
La 55e pole pour Red Bull, la 211e pour le moteur Renault, à une moyenne de 200,030 km/h. C'est le seul à avoir fait plus de 200 km/h sur sa pole.
Et c'est le seul sous les 1,40 aussi.
Messieurs, vous avez préparé vos notes ? C'est l'heure du top 10.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Moi, ce que je propose, c'est qu'on commence par le numéro 1 ici, tu vois. Il y aura plus de suspense que si on commence par...
Non, mais il y a eu des places très serrées cette semaine au top 10.
Bon. Ah, c'est un top 10 compliqué à faire, hein.
On a failli avoir une blague.
Ah bon?
Non, on n'appelle pas ça... Non, on n'appelle pas ça une blague. On appelle un ratio point-distance extrêmement élevé.
D'accord.
C'est pas pareil.
Ouais, ouais. Bah, une fanbase qui marche, quoi.
Ouais. Une entreprise florissante.
Alors, ne font pas partie du top 10 cette semaine. Il faut que je m'y colle, hein. Dino n'est pas là. Chilton, encore une fois, n'a pas marqué de points cette semaine. Zéro. Personne n'a pensé à lui. Contrairement à Van der Garde qui a marqué 16 points, Charles Pic 18 points, Bottas 25 points, juste derrière Ricciardo qui est à 26 points, qui est lui-même juste derrière Bianchi qui est à 27 points. À la 16e place, on retrouve Gutiérrez avec 42 points, là encore, juste derrière Maldonado avec 43 points. Button est 14e avec 92 points. Il est derrière son coéquipier Perez, qui n'est que 13e avec 173 points. Sutil a marqué 203 points. Et Mister Eleven, et bon, il ne marquera pas de points au classement, mais comparativement, voilà, comme je l'expliquais, à la distance de course parcourue, il a quand même accumulé 215 points. Ce qui est quand même plutôt pas mal pour Kimi Räikkönen.
Sans aucune raison, parce que bon, allez, sa belle qualif, d'accord. Mais finalement, cette belle qualif, on peut la relativiser par le problème de Grosjean, quoi. Grosjean, apparemment, alors 6e, ça paraît énorme. Mais même si c'est 4 ou 5, enfin, Grosjean repasse devant Räikkönen, si j'ai pas les temps sous les yeux. Mais, ouais, c'est surprenant, quoi, de voir Räikkönen classé aussi haut, alors que...
Et faut dire que ce midi, à peu près, il n'était qu'à 2-3 points de la 10e place.
Ouais.
Donc,
ça aurait dans le même style, enfin, je vais te faire une transition, Van der Garde est derrière Pic, alors que tout le week-end, il a été devant, quoi.
Oui. Ouais. C'est gentil pour la transition. Puisque, en effet, toi et Ben, vous avez donné des points à Van der Garde. Un point pour toi, 4 points pour Ben.
Ah, et carrément, oui, Ben. C'est-à-dire qu'entre nous, on a 5 points sur les 16, quoi.
Moi, le top 10, la première place, de toute façon, c'est pas compliqué. J'ai envoyé mail à Shinji tout à l'heure, une blague avec 10 fois Kimi. Et puis, j'ai mis le vrai top 10 avec le numéro 1. Et puis, j'ai mis un grand espace avant de mettre le deuxième. Voilà, le premier était évident. Et puis, les autres, c'était un peu... Donc, sur la fin, j'ai récompensé des pilotes Van der Garde. Moi, depuis quelques courses, non seulement il réduit l'écart, il est plus du tout ridicule face à Pic. Et régulièrement, il est devant, quoi.
Bah, je crois même, honnêtement, je crois qu'on peut même dire que ce moment, il est même plutôt devant. Ah oui, hein.
Il est meilleur.
Point,
en ce moment, il est meilleur que Pic.
Il est meilleur que Pic, hein.
Donc, mettre plus de points à Pic qu'à Van der Garde.
Pic, il a eu que 2 points de plus, hein.
Bah oui,
c'est pas non plus.
Non, mais t'imagines, Ben lui a donné 4 points, il a mis donc 8e, si mes calculs sont exacts. Donc, t'imagines, si comme moi, il avait mis qu'un seul point, enfin, le ratio aurait été, enfin, voilà.
Voilà, moi, c'est pour ça que j'ai mis 8. Parce que début de saison, c'était comme Chilton. Ouais, si Pic et Bianchi sont pas devant, ils n'ont qu'une place, ils n'ont plus pas leur place en F1. Bah pour Pic, enfin, commencer à se poser la question, quoi. Si on reste sur le même,
ou alors ce sont deux futurs ténors. Ce qui est quand même, enfin, c'est pas franchement l'impression qu'il donne.
Dans des proportions moindres, il est pas totalement ridicule non plus.
C'est-à-dire qu'on finit par oublier que finalement rien ne remplace l'expérience, quoi. Au bout d'un moment, bah ça a fini par rentrer, et donc même Gutiérrez qu'on a beaucoup décrié en début d'année, finalement ça améliore. Alors il est pas au niveau du Hülkenberg, parce que Hülkenberg c'est un tout autre calibre, mais ils sont là, quoi. Enfin, c'est la preuve de ce qu'on dit régulièrement dans cette émission, c'est que finalement pilote payant ou pas, il faut du talent pour être en F1.
Oui.
Et ces 22 là, et ils en ont.
Ben, tu as aussi donné 2 points à Maldonado.
Ouais. J'ai failli lui en mettre qu'un. Non, mais voilà, 11e avec une Williams. De nouveau, c'était, enfin, sûrement à la fin de mon top 10, je me suis dit, voilà, j'ai récompensé des pilotes un peu moins, dont on parle moins souvent. Et voilà, Maldonado, il a pas fait de mauvaise course, il est pas mal en qualif, il fait 11e. J'aurais pu mettre Bottas, qui était pas mal non plus jusqu'à la fin de course et qui fait une fin de course à la Vergne. C'est-à-dire que voilà, il y a plus de pneus, donc, forcément. Il se fait dépasser par tout le monde, mais donc j'ai mis Maldonado. Parce que voilà, 11e avec une Williams, c'est quasiment une victoire, les pères fois de la voiture cette année.
Et puis c'est le grand déçu du week-end, du coup, du fait des annonces qui sont à venir sur Lotus.
Ah bah oui,
ouais, aussi
on
un peu pour
parlé
ça.
Tout à l'heure.
Sinon, Ben, tu as donné 1 point à Perez, comme moi d'ailleurs.
Oui, bah c'est...
Il a fini dans les points, il est devant Button, encore une
ouais,
fois.
Ouais, pas un week-end forcément exceptionnel, mais comme quand j'ai fait mon top 10, il était quasiment hors de chez McLaren. Je me suis dit, on va lui mettre un petit point. Allez, pour son week-end, ils ne sont pas totalement perdus. Mais voilà, il aurait pu avoir d'autres pilotes.
Après, faut dire
j'ai
que...
voulu Matt Chilton à un moment donné. Je me suis dit, tant qu'à mettre des points à des pilotes à qui on n'en met jamais.
Après, faut dire que, voilà, faut dire que Button a eu un accrochage dans le premier virage, quelque chose dans le genre. Dans le premier tour,
ouais.
Le premier tour.
Avec
Sutil,
je crois. Non, avec... bah, peut-être... Non, pas avec Sutil, avec Diresta, je crois.
Je
avec
sais plus exactement, mais en tout cas, il rentre au stand dans les deux premiers tours. Donc,
oh, ouais, il rentre au stand très
chose
très vite.
Il perd 20 secondes, quoi, directement, 20-25 secondes. Ce qui explique le fait qu'il soit derrière Perez.
Oui, surtout qu'il était parti avec une stratégie, il était parti en médium. Ils étaient pas beaucoup en médium au départ, je crois qu'ils étaient 4 de mémoire. Donc, lui, sa stratégie était complètement, était un peu pourrie, du coup. Donc voilà. Bah, sinon, voilà, Perez, oh, pour un, il mérite pas plus.
Sinon, Gus Gus, tu as donné 6 points à Sutil.
Oui, je regrette un peu quand je vois que j'ai oublié une certaine personne dans mon top 10. Je me dis que
oui,
ouais,
c'est
j'aurais
vrai
pu,
oui.
J'aurais pu en donner moins. Bon. Non, mais d'une bonne course des Force India. Sutil, il a fait une stratégie médium tendre. Et dans mon top 10, j'ai plutôt récompensé l'audace de ceux qui ont essayé de tenter un arrêt, même si comme Verne par exemple, ils n'ont pas réussi à la tenir. Voilà, j'ai plutôt récompensé les gens qui ont essayé des stratégies décalées, même si elles sont plus adaptées à leur voiture. Quoi.
Justement, en parlant de Verne, c'est lui qui a fini à la 10e place avec 245 points. Et en fait, il y a que toi, Gus Gus, qui lui a donné 2 points.
Bah voilà, c'est exactement ce que je dis. Je me suis auto-transitionné. Ouais, il a tenté la stratégie à un arrêt. Il n'a pas réussi pour 3-4 tours. Surtout par rapport à un relais en tendre, s'il fait tendre médium, du coup il s'arrête sur la fin. D'ailleurs, c'est étonnant que quand il ressort et qu'il lui remette pas des tendres. Enfin, il fait 4 tours en médium, un peu bizarre. Non, voilà, une course où ils ont essayé, ça a pas marché. Voilà. C'était la seule façon pour eux d'essayer de marquer des points, je pense. Et une meilleure course que Ricciardo qui Ricciardo c'est vraiment un copier-coller de Weber. Des
ouais,
mauvais départs, ouais, des mauvais
départs.
Enfin,
départ,
c'est assez je sais pas, moi je serais Red Bull, je me poserais des questions parce que là qui vous a mis Ricardo Verne dans la deuxième Red Bull face à Vettel, ça va être très compliqué pour surtout Ricardo où on va retrouver les mêmes démons que Weber au départ quoi.
Ouais non, il est par 9e, il est quoi 16e après un tour, c'est une catastrophe.
Ouais,
c'est
souvent quoi.
Donc ouais non. Et Verne, bah oui, c'est vrai que j'aurais pu aussi finalement mettre dans le top 6, mais on y a 10 places, hein, il y a 22 pilotes.
Ouais.
Et c'est vrai que jusqu'à là, c'est les derniers tours, quoi, sa stratégie, il est un peu trop juste. Sinon, bah forcément, c'était pas mal joué, c'était pas mal essayé. Je pense que de nouveau, Bottas était sur le même type de stratégie. Enfin, sur la fin de course, ils perdent tous les deux, beaucoup de points, enfin beaucoup de places.
Bottas, il est en 2 arrêts.
Il est en 2 arrêts, Bottas.
Ouais, il fait médium tendre, il s'arrête au 24e et au 45e. Mais
ouais.
Il finit la course en tendre, en fait. C'est pour ça que, à la fin.
Non, donc j'ai rien dit. Bottas, il fait une course de merde. Mais, non, il faut dire que j'ai vu la course avec le nez dans le clavier, donc, il est possible que des choses m'aient un peu échappé. Mais, non, Vergne, voilà, c'est vrai qu'il, c'est un peu comme c'est Calife, où Vergne, c'est le spécialiste du, il passe la ligne, il est dans le top 10 ou dans, en Q2, et puis il y en a d'autres qui passent derrière lui, il est rétrograde, et il est out. Ben, en course, il a fait pareil à Abu Dhabi.
Sinon, à la 9e place, il a marqué 400 points. Je lui ai mis 2 points, mais je pense que c'était uniquement au classement. C'est Lewis Hamilton. Parce que je vois que vous lui avez pas donné de points.
Non.
Bah, il est passé à côté de son Grand
Prix.
Mais
oui, c'est ce que je...
Il est passé à côté de son Grand Prix. Rosberg, on reviendra plus tard, mais il faut une Rosberg. Mais il est là. Et Hamilton, il est pas là. En qualif, il peut pas grand chose.
Oui, en qualif, il peut rien. Il y a un triangle de
suspension
qui lâche.
Oui, là.
Puis il était pas largué,
course,
quoi. Il était quatrième.
Non, bah, sa qualif est pas mauvaise, hein, mais en course, on l'a pas vu, quoi. En course, il était moins visible que Rosberg. C'est quand même fort.
Après,
Donc,
il y a
le
plus
Roseron, je l'ai pas mis.
la stratégie, s'arrête au 7e tour quand Rosberg il arrive à en faire 10. À partir de là, tu repars te enfoncer dans le peloton, donc c'est sûr que tu peux pas, tu peux pas, c'est ce qu'a remarqué Thibaut Larue, pendant le Grand Prix, c'est que, avec des stratégies comme ça où tu tombes, sur les gens en arrêt, sur un circuit, c'est difficile de dépasser,
Ouais.
logiquement, ça, ta course en prend un grand coup, un gros coup dans l'aile, là, et donc elle
Ouais,
donne,
puis il est resté bloqué longtemps derrière les voitures que je crois que c'est Gutiérrez qui il s'est fait dépasser Thierrès par Weber et par Grosjean assez rapidement et Hamilton il est resté bloqué derrière un bon bout de temps quoi. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pas mis parce que effectivement il se retrouve dans le trafic mais il a pas su s'en défaire quoi. Que ce soit la Sauber ou la Force India, il est resté derrière trop longtemps.
À la 8e place, ça s'est pas joué à grand chose puisqu'il a marqué 401 points. C'est Nico Hülkenberg, je lui ai donné 4 points. Gus Gus, tu lui as donné 8 points. Ben, tu lui as donné 6 points.
Bah, une pénalité logique, il donne ça à
Ouais,
son
voilà.
guise. Bon, il y peut rien, mais c'est la course, c'est comme ça. Il fait partie de l'équipe lui aussi, même s'il y peut rien, voilà.
Toute façon, c'est toujours le même truc, hein. Quand il y a des unsafe release,
Ouais, mais
c'est le pilote qui trinque, quoi.
c'est
C'est,
toujours
voilà.
bon de le rappeler, quoi, que même s'il y peut rien, il fait partie de l'équipe, et vice versa. Non, mais après, une course pas mauvaise, il était parti pour être dans les points, je crois, autour de la 9e place, entre 8e et 9e. Après, rien de transcendant quand on connaît le niveau de la Sauber en cette fin de saison, et surtout l'avantage en traction qui aurait dû paraître davantage sur circuit, avec beaucoup de relance. Très étonné que du coup de ne pas voir la Sauber un peu plus à son avantage sur circuit.
Oui, parce que même Gutiérrez, voilà, alors qu'on avait bien vu quand même que les deux avaient bénéficié du regain de performance de Sauber, quoi. Donc
Ouais.
là, oui.
Ouais, non, il fait une bonne qualif, 6, Hülkenberg, et puis ma course, oui, il aurait pu rester dans le top 10, on aurait pu remarquer des points. Course gâchée par une bêtise de l'équipe. Effectivement, il en fait partie. Je crois que du coup, ils ont plus de pénalités financières dans ces cas-là. Ce qui, pour le coup, pour Sauber n'est pas plus mal. Mais ça vérifie, je suis pas complètement sûr.
Que
Hein,
la sanction sportive effacerait la sanction financière?
Ah, peut-être, oui. Bah, du coup, comme il a eu le drive-through, voilà, il y a pas,
Oui,
il a été
voilà.
Mais
Exactement.
sinon c'est double, ça fait double pénalité quoi pour le coup. Donc je suis bon. Enfin voilà, c'est vrai. Moi je trouve toujours ça dommage, mais c'est vrai qu'ils font partie de l'équipe. Donc après ils
C'est
gagnent
l'inverse,
ensemble, ils
quand le
perdent
pilote
ensemble.
fait une
Mais
erreur, c'est l'équipe trinque aussi. On perd ensemble,
oui
mais
bah
on
oui,
gagne
mais
ensemble,
c'est plus flagrant encore ici. Enfin dans ces cas-là quoi.
et certains pilotes feraient mieux de se souvenir, quoi. On y reviendra.
Et donc voilà.
Ah, pour Dino, un safe release, c'est toujours un drive-through.
Oui, oui, c'est un drive-through en course ou c'est une pénalité financière quand ça arrive pas en course, quoi, où tu peux pas,
Quand ça arrive trop tard, quoi.
ou quand ça arrive, quand ça arrive trop tard ou quand ça arrive en essai ou en qualif.
Oui, ça, oui, certainement. À la 7e place, il a marqué 525 points. C'est Paul Di Resta. Alors, je lui ai donné 6 points. Gus Gus, tu lui as donné 10 points. Ben, tu ne lui as pas donné de points.
J'ai failli le mettre dedans, hein, mais non, en fait, j'ai eu le malheur de lire hier les points donnés par Autosport, et Autosport a tendance à m'énerver avec des restages, je trouve qu'il le surnote toujours, donc ça me fait le noter moins fort. Donc non, il fait pas une mauvaise course non plus, mais voilà, j'avais envie
Un
de
seul arrêt.
oui, bah oui, mais moi j'avais envie de donner des points à des pilotes auxquels on en donne moins souvent, donc c'est lui qui a sauté. Il fait partie de ceux qui auraient pu, mais qui sont pas.
Bah moi au contraire, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai primé les pilotes qui ont tenté le pari, et donc encore plus quand ils l'ont réussi, comme dit Resta. Même si on sait, ce qui est peut-être plus tout à fait vrai depuis le changement de pneus, mais que la Force India a toujours été assez tendre avec ses pneus cette année. Chez Force India, je pense qu'en ce moment, c'est le travail de peut-être pas de développement de la voiture parce qu'on est loin dans la saison, mais d'exploitation du matériel qu'ils ont, de réglage, etc., qui commence à porter les fruits. Et finalement, on se rend compte que peut-être que même sans développer une voiture, à un moment, arrêter le développement 2 3 courses et se concentrer sur les réglages de la voiture, finalement, on continue de progresser et de mieux comprendre le matériel qu'on a. Donc du coup, peut-être des choses à apprendre sur le procédé à faire l'année prochaine, quoi. Peut-être se dire à un moment, bon ben, c'est pas trop grave si on n'apporte pas de courses, de nouvelles pièces pendant 2 3 courses. Quand on Faisons avec ce qu'on a et travaillons avec pour essayer d'améliorer le package, quoi. Avant d'essayer d'améliorer un truc qui peut être amélioré autrement. Enfin, je comprends.
Oui, puis ça a un peu pimenté le duel avec Sauber aussi. Hein. C'est sympa. Mm. On se console avec ce qu'on a. Hein,
C'est vrai que.
Non, mais il y a plein de petits trucs, plein de petits sous-classements, c'est toujours intéressant. Même s'il n'y a plus que deux courses, là, pour le coup, ça va peut-être devenir un petit peu plus compliqué pour Sauber.
Oh, là, je pense que le classement, à part pour la deuxième place, c'est figé.
Oui, il y a quand même 30 points. Ouais, s'ils avaient fait un meilleur résultat cette semaine, peut-être, mais là, oui, 30 points en deux courses, on ne sait jamais avec Sauber, mais bon.
Oui. Puis un peu de pluie au Brésil, et puis Hülkenberg, il peut rééditer sa course de 2012.
Ah non, Hülkenberg au Brésil sous la pluie, ouais, ça peut faire mal, ça.
Il est sixième, je lui ai donné 8 points, comme Ben. Il a reçu, je dirais, 919 points, comme il a reçu 25G ce dimanche. C'est Fernando Alonso.
Alors Fernando, je te prie de me pardonner, Ouais, j'ai fait mon top 10 un peu vite, du coup, tu n'es pas dans mon top 10. Fernando, je m'excuse le plus patemment possible du monde.
Voilà. Bah, il rattrape bien sa qualif.
Oui, il rattrape très bien sa qualif, même.
Il nous fait une Alonso, pour le coup. D'autres nous font des Rosberg, lui, il nous fait une Alonso. C'est-à-dire que, en qualif, il est, quand tu vois les performances de la Ferrari dernièrement en qualif, faire 11e, c'est pas une catastrophe non plus, c'est vrai que c'est étonnant.
Oui.
Voilà. Maintenant, il fait une course pas mal, il est dans les échappements de Massa. Non, il en fait deux, hein.
Non, deux. 16e et 44e.
Ah oui.
Puisqu'il finit,
il repart entendre derrière.
Ah, c'est pour ça.
Voilà. Mais c'était bien vu, en plus, de repartir entendre, hein, pour le coup. Massa aurait bien voulu faire pareil.
Ouais, on en reparlera.
Voilà, non, il fait pas une mauvaise course, Alonso. Et déjà, son cinquième, je pense que même en s'étant qualifié mieux, je pense qu'il aurait pas pu faire beaucoup plus que cinquième.
Moi, je l'aurais pas mis beaucoup plus haut que Massa, finalement, dans le top 10.
De toute façon, oui, en ce moment, derrière les Red Bull, derrière Mercedes, oui.
Derrière non, les Lotus aussi.
Lotus, oui.
C'est sûr que oui, c'est le mieux qu'il pouvait faire, mais on sent plus la magie opérée, quoi. La magie de 2012, ce mélange entre la détermination et le fait de se sublimer avec une voiture moyenne, on sent plus ça. Enfin,
c'est-à-dire que là, le classement est foutu au niveau des pilotes. Et après, c'est vrai qu'au niveau des constructeurs, c'est important, mais est-ce que ça le concerne? Voilà.
Ça devrait, parce que...
Ça devrait,
mine de rien, c'est quelques millions de dollars sur lesquels Ferrari peut pas cracher, même si ça doit être le budget le plus important du plateau. Voilà, c'est toujours...
Et puis
ça peut leur permettre de reconstruire une nouvelle soufflerie, quoi, par exemple. Je dis ça, je dis rien.
Ouais, puis c'est un sport d'équipe, on l'a dit tout à l'heure avec la pénalité d'Hülkenberg, et là c'est pareil.
Ouais, mais ça, dans l'équipe, c'est pas le pire. On y reviendra.
Ah, alors là, parce que je vois qu'en plus au niveau du chat, oui, il aurait dû finir 8e, 20 secondes et ça. Mais oui, on va en parler maintenant.
Tout
forcément,
de suite.
De la sortie des stands.
C'est vrai que de prime abord, quand on voit l'image en direct, on se dit, il peut pas y coupé, il le passe
il sort quand même vachement bien, quoi.
Il sort de la piste, oui, ça c'est...
Il sort de la piste, hein, ça... comme dit Totor, 1 cm en Hongrie, lui, il a une pénalité, quoi.
Maintenant, la situation est différente de la Hongrie par le fait que Vergne est directement à côté d'Alonso et il le voit pas. Il le pousse hors piste, c'est indéniable.
Ça, c'est
donc
un
du coup, Alonso n'a pas d'autre choix de passer hors piste. Il a le choix de lever le pied, ça c'est vrai.
Et oui, voilà.
Au départ, il passe hors piste parce que Vergne ne le voit pas. Maintenant, il y a la justification de la FIA. C'est très mal justifié, mais ils auraient pu justifier en fait autrement et ça se serait très bien passé. Ils ont parlé de pneus tendres, de pneus usés pour Vergne, enfin des trucs un peu bizarres. Moi, ce que j'en comprends de ce qu'ils voulaient dire la FIA, c'est que qu'Alonso, il avait placé sa voiture au niveau de celle, pas au niveau, mais enfin de façon à ce que Vergne n'ait plus le droit de se rabattre parce qu'Alonso était engagé à côté de lui et que Alonso allait plus vite à ce moment-là, c'est-à-dire il était 4 ou 5 km plus vite que Vergne et que donc si Vergne n'avait pas poussé hors piste, Alonso serait passé au virage suivant. Je trouve que c'est une justification tout à fait normale de dire que du coup, si Vergne n'avait pas tassé, il aurait fini par passer au virage d'après. Maintenant, la FIA est allée s'enfermer dans un imbroglio en rajoutant là-dedans le fait que Alonso était en pneu neuf et que Vergne était en pneu usé, enfin un truc un peu qui brouille un peu la justification et qui fait que bah certains ont interprété ça comme le fait que du coup maintenant comme si t'as des pneus neufs et que tu te bats contre quelqu'un sur un peu contre des pneus usés, bah t'as le droit de passer hors piste pour passer parce que finalement tu fais que enfin c'est retarder l'échéance de pas le faire. Enfin,
oui, enfin c'est quand même laisser la porte à un truc très limite.
Oui, mais voilà, mais je crois que c'est la justification qui est très mal formulée, mais que ça... dans leur tête, c'était très clair que les pneus n'ont rien à voir. C'était juste le fait que Alonso était plus rapide à l'instant T où il se porte à côté de Vergne, et que du coup, il serait passé au virage d'après, enfin, sans parler de pneus ou de je sais pas quoi.
Ouais, c'est très mal justifié. Tu justifies pas en disant, bah non, on le pénalise pas parce que de toute façon, il aurait passé. Bah non, non.
C'est très mal formulé.
Oui. Sachant que, alors,
tu peux
là me confirmer.
Alonso aurait pu laisser passer, enfin repasser Vergne et il serait repassé du virage d'après, tu vois, ou même ralentir en voyant Vergne arriver en disant de toute façon j'ai de meilleurs pneus, je vais le passer au virage suivant. Voilà. D'où il serait passé.
Essayons d'être clairs, il n'y a pas de règle de priorité dans le règlement.
Non, moi j'attends que les gens qui m'en parlent me citent.
Parce que parfois certains ont cité ça, mais il me semble il n'y a aucune règle de priorité particulière.
Non, et puis c'est une course, je veux dire, à un moment, à partir du moment où t'es
sachant que t'es pas une vitesse
limitée, enfin c'est une course, les gens ils font la course, t'as pas à laisser la priorité à X ou à Y quoi.
Voilà, sachant que enfin si j'ai bien vu les images, quand ça se passe, il est parce que vous savez il y a la ligne qui ne doivent pas traverser avant de sortir, il ne la coupe pas. Hein. Donc quand ça se passe, il est entre guillemets déjà sorti, on va dire, de la zone des stands et de la zone de réaccélération.
Un peu, mais non.
Non, ça il ne la coupe pas. Alors après, est-ce que le vrai problème finalement, c'est pas cette sortie des stands?
Ah oui, non, mais ça, mais c'est depuis le début.
C'est voilà.
Déjà, rien que le tunnel en soi, c'est un truc super dangereux. Si un jour il se passe un truc, quelqu'un qui se plante, bah t'es obligé de sortir un drapeau rouge parce qu'il faut envoyer un camion là-bas en dessous, etc., etc. Effectivement, le fait que tu ressors à la même vitesse. Mais c'est comme finalement la sortie des stands en Corée de cette année. Maintenant, ils ressortent à la même vitesse à peu près que les pilotes qui arrivent, et ça rejoint assez soudainement. Donc finalement, c'est assez dangereux. Ouais. Du coup, Vergne a dit qu'il l'a pas vu, quoi. Enfin,
c'est fort probable parce que on est.
Ah non, mais Vergne, lui, il l'a pas vu. Mais, quand tu vois l'action, c'est enfin, ou alors il le tasse volontairement et Vergne est débile, mais je pense pas. Donc effectivement, il y a.
Alors Adelin demande mais quelle sortie des stands n'est pas mal placée. Je dis pas qu'il y en a qui sont parfaitement placées, mais il y en a quand même certaines qui sont mieux foutues que ça, quoi.
Bah oui. Déjà Francorchamps, ils sortent pas vite.
Non, c'est vrai qu'avec le virage qu'il y a à faire, oui.
Mais Interlagos comme le dit Dino. Bah c'est tout.
Ah pourquoi
tout,
elle est longue hein.
Oui. Ou tu sors pas sur la trajectoire, c'est tout con.
Oui.
Parce que finalement même au Canada, elle est pas exceptionnelle. Enfin, Herman Tilke ne sait pas dessiner des circuits. Il serait quand même con qu'il sache dessiner que des sorties des stands. Hein. voilà. Bon, je pense que la meilleure décision aurait été de Ferrari dire à Alonso de laisser passer Vergne.
Bah oui, c'est ça.
Non, mais ça.
Parce
ça,
que
ça, oui, mais bon.
Il n'y aurait pas eu de polémique. De toute façon, il serait passé Vergne avant la fin du tour dans lequel ils étaient, parce que Vergne n'avait plus de pneus, que Alonso avait de nouveaux pneus frais détendre. Donc voilà, ils auraient dû être intelligents et il n'y aurait pas eu de débat. Mais
j'aimerais répondre à Dino qui sur le chat me dit un pilote qui dépasse en dehors de la ligne blanche doit être sanctionné. Mais à ce moment-là, tu sanctionnes aussi le pilote qui tasse l'autre, même si c'est pas fait exprès. Enfin à ce moment-là, tu mets une pénalité, ne serait-ce qu'une réprimande finalement.
Ah mais sauf que Vergne, techniquement, il le tasse pas vraiment puisqu'il est sur la trajectoire.
Il le force à aller hors piste. Alonso est engagé à côté de lui. Enfin c'est les règles qui ont été clarifiées.
Il se décale parce que la trajectoire est comme ça. Après, le problème, c'est qu'il n'y a aucune vue, mais non, et comme il regarde jamais leur...
Trajectoire ou pas, Alonso est là. Enfin, tu peux pas faire comme s'il était pas là, même si tu le vois pas. À ce moment-là, tu pénalises aussi Vergne, qui force Alonso à aller hors piste. Enfin, ce qui est interdit, même si c'est...
C'est comme le débat avec la pénalité de Grosjean en Hongrie. Tu peux pénaliser Massa, parce que finalement, Massa le tasse aussi. À un certain niveau. De manière moins flagrante, peut-être, mais bon. Et à mon avis, certains le mettent sur le chat, c'est surtout qu'Alonso sait très bien où est Massa aussi, et qui veut rester devant.
Mais le truc avec la Hongrie, c'est que Grosjean, il est devant. Donc finalement, il peut ralentir un peu pour essayer de faire le virage et de rattraper les 5 ou 6 millimètres qui lui manquent. Là, Alonso, il est derrière et du coup, il est tributaire de ce que fait Vergne. C'est Vergne qui commande un peu l'action parce que c'est lui qui est devant et que c'est Alonso qui doit réagir à ce que fait Vergne. Là, Vergne, le tasse, il fait pas exprès, mais il force un pilote à un autre pilote, comme avait fait Rosberg à Bahreïn, et c'est depuis cette course-là, quoi, que les règles sont clarifiées. Tu n'as pas le droit de forcer un autre pilote à passer hors piste. Donc, soit il fallait mettre une pénalité aux deux, donc soit finalement une réprimande, quoi, aux deux, soit il fallait rien faire, et pour moi, c'est une décision qui se justifie.
Ah tiens, Dino évoque la notion d'intentionnalité. Alonso s'engage intentionnellement, Vergne est simplement sur la trajectoire et gêne Alonso.
Non, je pense pas.
C'est vrai que le règlement, enfin, sur ce point-là, je pense qu'il y a pas de question d'intention.
Non, oui, voilà. Et
du coup, techniquement, le règlement dit que si tu dépasses un pilote en dehors des limites de la piste, t'es pénalisé. Donc, du point de vue strictement réglementaire, Alonso doit être pénalisé. Le problème avec la FIA, c'est que non seulement ils justifient mal, et qu'en plus ils créent eux-mêmes des jurisprudences débiles. Donc,
mais si tu pars de là, Vergne aussi doit être pénalisé. Parce qu'il force un autre pilote à sortir de la piste. Donc finalement, la bonne décision, c'est de pénaliser les deux. Parce que d'un côté, Alonso passe en dehors de la piste, mais Vergne le force à aller en dehors de la piste.
Ouais. Le truc, c'est quoi là? Vergne, il reste quand même sur la trajectoire.
Non mais d'accord qu'il est sur la trajectoire, mais à un moment ou un autre, enfin tu peux pas toujours sortir l'excuse de la trajectoire pour dire je suis sur la trajectoire, je vais pas bouger, sinon tu provoques des accrochages, je dis oui mais j'étais sur la trajectoire, enfin ça n'a aucun sens. La trajectoire, Vergne était dessus, et finalement non, c'était Alonso qui était dessus. C'est Alonso qui était à l'extérieur du virage à ce moment-là, qui était plus à l'extérieur encore que Vergne. Enfin bref, on aura l'occasion de reparler j'imagine dans les drivers.
À la 5e place, il a marqué 1163 points, et là aussi, il est devant son coéquipier, c'est Felipe Massa, à qui j'ai donné 10 points, comme Ben, et Gus Gus, tu lui as donné 4 points.
Moi, c'était forcé que je le mettais devant Alonso.
Ouais, moi, c'est
je peux mettre beaucoup, beaucoup plus devant non plus,
pareil,
mais ouais. Juste devant.
Pareil,
parce que
moi aussi,
cours, je pense que voilà, on va pas rentrer dans une paranoïa excessive, mais il y a un petit doute, on connaît un peu Ferrari, donc on peut avoir un petit doute. Bon voilà, je pense qu'il...
Après...
Ou en tout cas, il devait finir au moins derrière, quoi. Je pense que si Massa se demande pourquoi on ne l'a pas mis des tendres, c'est qu'il y avait possibilité pour lui d'avoir des tendres. Dans les deux cas, qu'ils finissent devant ou derrière Alonso, ils s'en foutent. Pour Ferrari, c'est le même nombre de points. Et je pense que ils sont quand même, au niveau stratégie, ils sont peut-être tirés une balle dans le pied, parce que c'est des points importants, rien de rien.
Massa s'arrête pour la deuxième fois au 38e tour. Alonso s'arrête au 44e tour. Du coup, enfin, qu'on mette des tendres à Alonso pour faire les 11 tours restants, c'est logique. Qu'on mette pas des tendres à Massa, pourquoi pas. À la limite, pourquoi pas. Maintenant que Massa se répande derrière dans la presse en disant que la stratégie, machin, enfin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le pilote fait partie de l'équipe, il voulait détendre, il avait qu'à les demander, je pense que Ferrari leur aurait donné, il y a aucune raison que Ferrari se gâche la course, alors qu'ils sont en course pour la deuxième place pour les constructeurs. Ils sont très mal placés parce que Mercedes et Lotus sont sur une pente ascendante, eux non. Il faut arrêter de voir à chaque fois un complot partout. J'en reparlerai dans le drive-thru, mais là, il s'arrête plus tôt que Massa. C'est pas non plus une décision que Alonso. C'est pas non plus une décision complètement illogique de mettre des pneus pour lesquels t'es sûr d'aller au bout de la course.
Alors après qu'il fasse sa pleureuse ouvertement dans les médias, c'est comme quand Weber se plaint au Japon, hein. Mais
moi
je trouve qu'il a pas fait une mauvaise course. Il est bien en qualif, donc moi je l'ai mis juste devant. Je pouvais pas le mettre non plus beaucoup plus devant qu'Alonso, mais
c'est pour ça que si j'avais pas oublié Alonso, je l'aurais pas mis beaucoup plus haut que Massa, mais je l'aurais mis devant parce que là Massa a très franchement fait preuve de très mauvais esprit, je trouve.
Vous avez votre dire sur Massa?
Bah non, il fait pas non plus une course. Enfin, il fait une course moyenne. Enfin, il finit 8, c'est ça.
Oui. Ouais, une course avec.
Voilà, Alonso fait une course en soi moyenne aussi, même s'il remonte bien par rapport à sa position de départ. C'est pas des courses exceptionnelles non plus, quoi. Mais
ouais, puis on subodore une stratégie à un arrêt qui finalement n'est pas venu, quoi.
toute façon, en stratégie, quand ils sont beaucoup fourvoyés tous. Hein. Enfin, je sais pas si ça peut très bien où ils allaient.
Non, mais par exemple, oui, non, c'est vrai que quand on voit les stratégies dont on a parlé tout à l'heure, le fait de repartir dans le peloton. Non, mais quand on voit que Di Resta s'arrête au 20e tour, alors il a pas une Ferrari, c'est sûr, mais que Massa s'arrête au 18e, pareil, entendre, qui repart en médium. Di Resta s'arrête, fait la stratégie à un arrêt, il reste, il l'a réussi et Massa l'attend pas. C'est vrai que c'est aussi surprenant que le fait qu'il... C'est peut-être ça qui est plus surprenant que le fait qu'il lui remette pas d'étendre. C'est le fait que du coup, en ayant fait 18 tours en tendre, il soit pas capable de faire des brouettes en médium.
Mais je pense que c'est sur ça qu'il s'étonne, en fait, Massa. Parce qu'effectivement,
Rentre deux tours après Alonso. Entend, il s'arrête 6 tours avant avec son pneu en médium. Alors peut-être un plat sur le pneu ou trop d'attaque, je sais pas, mais bon.
Mais je pense que c'est sur ce deuxième relais qu'il est pas content. Ah non, après effectivement, venir se plaindre ouvertement, il l'aurait pas fait avant, se plaindre comme ça. Donc c'est comme quand on s'était plaint, quand certains s'étaient plaints qu'il laissait pas passer Alonso au Japon, voilà, qu'il c'est-à-dire qu'une fois qu'il est pas renouvelé, ce que je veux dire, c'est que Massa, une fois qu'il est pas renouvelé, qu'il décide lui-même de plus laisser passer Alonso, pas de problème. En plus, là, dans ce cas de figure-ci, il y avait vraiment plus aucun enjeu au championnat, ça aurait rien changé à l'issue. Oui. Mais maintenant qu'il vienne le dire, ouais, maintenant que je fais plus partie de l'équipe, je joue plus le jeu, t'es peut-être pas obligé de le dire, quoi. Et donc, il dit, voilà, se plaindre ouvertement.
En même temps, c'est presque sans risque pour lui de se plaindre. Parce que de toute façon,
c'est peut-être un peu facile dans ce cas-ci de se plaindre, alors que il aurait un contrat en poche, il se serait pas plaint, quoi.
Oui.
Voilà. Qu'il le laisse pas passer, ça c'est pour moi ça me pose aucun problème. De toute façon, en plus ici les titres sont joués, donc de nouveau ça me dérange pas. Maintenant qu'il vienne se plaindre ouvertement. Voilà, ses réponses pour avoir un volant, il doit les donner en piste. C'est pas en se plaindre qu'il va avoir un paquet.
Puis c'est dommage que ça se finisse comme ça, alors que juste ici, finalement, il avait joué le rôle du bon lieutenant, et finalement, ça tourne au vinaigre, parce qu'il n'est pas du sien. Enfin, Ferrari.
Oui, et puis c'est une longue histoire avec Ferrari, quand même, l'air de rien. Oui, c'est un des pilotes qui est resté plus longtemps là, donc, c'est vrai que pour ça, c'est un peu dommage, ça, il en sort pas forcément grandi.
Il a toujours été réglo avec Ferrari, et même si Ferrari n'avait pas forcément été, avec lui, et là, c'est l'inverse. Ferrari ne fait pas de grossière erreur ne fait rien qui puisse le blesser ou le mettre en danger sa course, et là c'est lui qui
non
fait...
Mais même dans les déclarations de Ferrari après l'annonce de Raikkonen, ils ont quand même salué son travail chez Ferrari, le fait que effectivement ça faisait longtemps qu'il était là, que ça resterait un pilote qui resterait dans l'histoire de la Scuderia.
Ouais, mais ça c'est des trucs qui disent tout le temps.
Non, mais c'est des trucs.
Ouais, non, mais c'est vrai, en même temps, c'est vrai, je crois que c'est le deuxième ou le troisième pilote avec le plus de départs chez Ferrari, donc
ce sera pas celui qui a gagné plus, c'est pas celui qui a eu le plus de titres, rien que pour le Brésil 2008, il reste dans l'histoire parce que pour le même prix, il était champion du monde.
Non, puis il a fait sa part en faisant le jeu d'équipe avec Raikkonen et avec Alonso, quoi. Enfin, c'est...
Voilà. Puis avec Raikkonen, à l'époque, Raikkonen, il était pas ridicule face à Raikkonen. Non, depuis 2009, il est meilleur que Raikkonen. Voilà, il n'y a pas...
À la quatrième place, il a marqué 1238 points. C'est un pilote allemand. Non, ne rêvez pas. C'est pas Sébastien Vettel, hein. C'est Nico Rosberg. Je l'ai mis deuxième, comme toi, Ben. Et Gus Gus, tu l'as mis troisième.
Oui, une bonne course.
Oui.
Il y a un regain de forme là sur la fin de la saison.
Oui.
Mais il est plus si bien que ça d'Hamilton, hein, au championnat.
Ouais, il y a une vingtaine de points, je crois.
175, moins que ça.
Ouais.
Il faut dire que sur le début de la saison, il pense qu'il était pas si loin que ce qu'on puisse croire, parce que au début de la saison,
il y a eu
des problèmes mécaniques, mais il a quand même eu 2 victoires. De bons résultats le temps qu'Hamilton s'adapte, quoi. Donc du coup,
mais
après,
Hamilton
sur sa course en lui-même. En fait, la comparaison est fade entre Vettel et les 21 autres pilotes, quoi.
Oui.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a un type qui gagne, les autres qui sont ridicules. Enfin, s'ils ont la fortune.
Ouais, équipe comme pilote, hein.
D'accord.
Parlons de Rosberg.
Oui, pardon.
Mais Rosberg, belle course. Tu veux dire d'autre? Bon, en fait, mon top 4, ça a failli être l'ordre d'arrivée, mais, moi, j'ai mis Rosberg devant.
Ah non, moi, j'ai pas pu m'y résoudre.
Peut-on qualifier cette course de course à la Rosberg?
On n'a pas fait que ça.
Oui.
voilà, on l'a pas.
C'est terrible hein, quand même.
C'est... Mais c'est à dire que le moment, le moment où on le voit le plus, c'est quand il se fait, il perd une place en fait. C'est quand il perd la deuxième place face à Weber. Sinon, on l'a pas beaucoup vu Rosberg. Hein. Mm. En même temps,
sachant que bon. Après, on sait pas ce qui se serait passé, mais vous savez que bon, sur la fin, Grosjean revenait, et puis, il a quand même coupé un virage.
Alors, j'ai pas vu, je peux pas juger, j'ai pas vu,
ouais,
je regardais
pas. Voilà, ça a été signalé, voilà. Il a coupé un virage, qui lui a pas forcément fait perdre
de
temps.
Mais il aurait dû, quoi.
Voilà, il aurait dû perdre quand même un petit peu de temps. Quand tu vois que sur la toute fin, Grosjean finit vraiment, sur les basques de Rosberg, on se dit forcément, tu sais, hein, suffit d'être dans la fameuse zone de la seconde.
Ouais, en même temps.
Final, je regarde.
Non, ils sont pas, ils sont. Il y a une seconde deux à peu près. Une seconde,
ouais,
une
voilà.
Seconde. Donc, ouais, bon, il a géré aussi sur la fin. Je pense qu'il était pas à fond. Il avait des tours, c'était des pneus qui étaient 4 tours plus vieux que Grosjean. Du coup,
En tout cas, pour parler de Grosjean, Grosjean lui a fini troisième du classement. Avec 1290 points, donc l'écart est pas non plus extrêmement grand. Hein. Je l'ai mis, mais en fait, je l'ai mis troisième comme Ben, et toi tu l'as mis deuxième.
Je précise, c'est pas concerté avec Shinji. Hein.
Oui, bah non.
Non, mais je l'ai mis deuxième eu égard au problème qu'il a connu en essai libre et en qualif. C'est la même chose qu'on constate depuis quelques courses. Maintenant, quand il y a un problème, il y a pas mort d'homme, c'est arrivé. On va essayer. Enfin, ils sont dans le processus mental de se dire bon bah ça se rattrape. Alors qu'avant Grosjean c'était la fin du monde quoi.
Oui.
Quand il y avait 0,5% de décalage sur la réparation de freinage, c'était la fin du monde. Là maintenant, il y a des trucs qui lui tombent sur le coin de la tête en essai libre, en qualif. En qualif, il y peut rien. Il est sixième, il est septième, il part sixième sur la grille. Prend un bon départ.
Puis
il
ça
est
va,
pas
même...
forcément aidé par sa stratégie en plus. Ouais. C'est le problème de Lotus qui essaye à chaque fois de couvrir ses arrières par rapport aux autres. Il rentre en même temps que Weber. Ça aurait été la situation inverse. Parce que Red Bull aime bien souvent dire aux pilotes, tu te calques sur la stratégie de ton opposant, mais tu fais l'inverse. C'est-à-dire que on entend souvent dans les retranscriptions des conversations radio, on dit à Weber ou à Vettel de faire l'inverse des pilotes qui sont devant. Donc par exemple au Japon, quand Grosjean était devant Weber on lui a dit tu fais le contraire de ce que fait Grosjean. Donc quand Grosjean est rentré, Weber est resté en piste, ou c'était Vettel ou je sais plus qui. Là où est Lotus se contente de suivre, alors c'était peut-être fait exprès, mais je pense que la Lotus vaut plus que 8 tours, il s'arrête à la fin du 8e tour, vaut plus que 8 tours sur les tendres.
Mais d'après les essais libres, oui, elle marchait bien. Je comprends pas pourquoi il rentre en même temps.
Après, il y a un petit bémol qu'il a pas roulé lui en tendre en essai libre 2 à cause des problèmes de freinage qu'il a connus, si je me souviens bien. Donc peut-être ils étaient moins sûrs des tendres que les autres.
Ah, oui, mais enfin, ils doivent quand même avoir des données sur le, enfin, minimum sur l'usure des pneus aussi.
Non, oui, c'est sûr.
Lui, l'équipe et lui, ils doivent pouvoir dire, rentre en même temps, aujourd'hui, avec la vitesse d'exécution des stands, tu gagnes quasiment plus de position. C'est pas possible de dépasser quelqu'un, dans la poids des stands.
Ouais.
Donc, il faut chercher autre chose. Forcément, que tu rentres derrière, tu ressors derrière. Enfin, les types, en 2 secondes, ils sont changés les 4 pneus.
Alors, précision, Dino demande sur le chat si c'est le 4e podium de Grosjean au SAV. Non, c'est le 3e de suite. Et cette saison, c'est le 6e.
Comme quoi, l'image de cinglé du premier tour est définitivement enterrée. Enfin, définitivement, peut-être pas, mais voilà, elle est loin derrière.
C'est, non, au niveau des classements, vous savez, c'est bon, c'était très irrégulier en début de saison. Par contre, depuis le Grand Prix d'Allemagne, il est toujours dans les points.
Ah, ouais. Moi, je l'ai mis troisième, mais c'est vrai que c'était lui ou Rosberg, et ça s'est décidé.
Oui, oui. De toute façon, même là, hein, il fait quatrième.
Il n'y a pas grand chose.
C'est pas un podium, mais il est encore, voilà, sur cette continuité de ses dernières courses, hein, clairement.
Ça ressemble à un podium, mais c'est pas un podium.
Non, il fait pas une mauvaise course. Hein.
Ouais, après, c'est pas une course transcendante non plus.
Non, bah il fait. Je pense qu'il y avait moyen de faire. Enfin, il y a encore. Est-ce que ressortir devant Weber, ça aurait changé quelque chose? Je sais pas, mais.
Ah non, mais il serait pas sorti devant Weber. Par contre, il aurait eu des pneus plus. Il aurait été plus proche déjà de Rosberg en fin de course. Il aurait pu davantage pousser son premier relais, son deuxième relais, et peut-être sortir en tendre à la fin, quoi, comme a fait Alonso.
Ouais. De toute façon, il faut jouer des. Si tu veux passer quelqu'un, il faut faire des stratégies décalées. C'est Dino qui met ses historiques. Weber est l'homme sur qui on cale sa stratégie à Abu Dhabi, c'est vrai. Enfin, c'est comme ça qu'Alonso a perdu le titre en 2010. Hein. Ils ont pas vu Vettel. Voilà.
Ouais, donc un petit bémol sur Lotus, quoi. Et les stratégies, il va falloir que ça change en... Parce qu'il leur manque pas grand-chose, finalement. Ils ont la voiture, ils ont maintenant les deux pilotes.
Mmh. Mais le pire, c'est qu'ils jouent bien en Inde. C'est qu'en Inde, ils le jouent bien avec Grosjean. Avec Raikkonen, pas. Mais on a un problème. Mais avec Grosjean, ils le jouent
en
bien.
En Inde, ils sont obligés de bien jouer parce qu'ils sont acculés déjà dès les qualifications. T'es obligé d'essayer de tenter quelque chose. Là, ils sont dans une position relativement normale. Ils sont quatrième au bout du... Enfin, après le départ.
Et du coup, ils jouent petit bras. Voilà.
Au Japon, mais c'est comme au Japon. Au Japon, ça a joué petit bras aussi. Ils ont essayé d'assurer leurs arrières. Au Japon, en plus, ils ont décidé de pas choisir. Ils ont choisi, finalement, ils ont suivi ni Weber ni Vettel. À part faire les savets du Japon, mais. Ils ont suivi ni Weber ni Vettel. Ils ont fait une stratégie un peu mixe des deux. Enfin, et là, c'est un peu la même chose. Ils suivent Weber, premier arrêt, et finalement, ils le suivent pas après. C'est toujours un peu incompréhensible, les stratégies.
C'est pas en restant dans ses petits souliers, en essayant de pas prendre de risques, qu'on va aller chercher des Red Bull, quoi. Ici, je pense qu'ils étaient apprenables, hein. Vettel était à toucher. Si tu prends pas de risques en piste, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il prend des risques dans le développement de la voiture, etc. Enfin, c'est une attitude. Puis c'est des fois, t'as l'impression qu'ils font. Comme tu dis, en Inde, ils sont obligés de prendre un risque. Et pourquoi est-ce qu'ils prennent pas? Ils voient que ça marche. Pourquoi est-ce qu'on se dit pas, on part septième? Petite déception parce qu'on Grosjean aurait pu avec une voiture tip top faire mieux. Pourquoi est-ce qu'on tentera pas le même coup?
Surtout que là ils vont être vu leur situation au classement du constructeur, ils vont être obligés s'ils veulent avoir une chance de repasser même ne serait-ce que troisième.
Mais surtout que d'autant plus que dès le départ ils perdent Raikkonen, ils perdent une voiture.
Ouais.
Donc quitte à jouer quitte ou doux, prends des risques quoi. Joue pas petit brand en disant on va sauver des points. C'est de dire on va viser plus que ramener des points quoi.
Mais c'est un peu ce que dit Dino sur le chat, il vise une place comme objectif. C'est souvent Boulier dans ses interviews dit nos simulations nous disent que on est P5 ou P4 quoi. On vise cette position. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'ils sont prisonniers de leur simulation et qu'ils n'arrivent pas à avoir plus d'imagination que leur logiciel de simulation. C'est vrai que
sur un plan ils s'y tiennent quoi. Ils changent pas l'iota sur la course quoi. Enfin, ils sont un peu rigides de ce côté là.
Passons à la deuxième place. Il a marqué 1332 points. Je l'ai mis quatrième, comme Gus Gus et comme Ben. C'est Mark Webber.
Ouais, et moi, j'étais déçu, Webber.
Encore et toujours, les départs de Mark.
La première, il la passe bien. Apparemment, c'est plus sur la deuxième qu'il a des soucis. Mais de ce que j'ai lu, il mettrait trop.
C'est marrant parce qu'il y avait une radio juste avant qui disait que justement, il devait activer le KERS sur la deuxième.
Oui.
Waouh, hasard ou coïncidence?
De nouveau, si Weber sait pas qu'en poussant trop sur le KERS, il va faire patiner ses pneus, enfin, ça me paraît un peu, disons qu'on se dit, et s'il avait au moins, il était au moins passé deuxième au premier virage.
Ouais, enfin, vu la démonstration que fait Vettel derrière, pas sûr que ça lui changeait grand chose.
Mais laisse-moi rêver.
Sur cette course,
t'as envie de dire qu'il fallait quelqu'un. L'impression, c'est que c'était le seul qui aurait pu, parce que c'est le seul qui a la même voiture.
Voiture.
Avant de dire que non, mais.
Donc, à la base, théoriquement, il a la même voiture.
Parce que, oui, il fait la pole, c'est bien. Enfin, Vettel
se plante. On découvre que c'est une RB5. En grattant, sur la fiche, sur la plaquette, sur le châssis, RB5.
Mieux, on découvre que c'est une Jaguar repeinte.
Le pire, c'est que tu peux te dire que Red Bull pourrait encore gagner avec une RB5. ça qui est terrible.
dis pas des choses comme ça, ça va leur donner des idées.
Mais non, mais enfin.
Attends, déjà, il devait venir en début de saison avec une RB8 modifiée.
Ouais.
Non, après, sur la course de Weber, c'est toujours la même chose, il souffre de la comparaison avec Vettel, finalement. C'est pour ça que j'arrive pas à le mettre plus que quatrième.
Ouais, moi aussi.
Ouais, bah oui.
Il a tout pour ne serait-ce qu'être deuxième, même si Vettel est devant. Ça, c'est pas illogique. Le fait qu'il soit 30 secondes derrière, ça fait relativiser la performance par rapport à Vettel, et du coup, par rapport aux autres, tu as des voitures un peu moins performantes. Un poil, mais quand même moins performantes.
Puis moi, honnêtement, je voudrais quand même qu'il en gagne une avant de partir, tu vois.
Oui.
Je me dis que si même quand il part en pole, il n'y arrive pas, il va jamais y arriver. Enfin,
a priori, non. Je vois très mal pourquoi.
Surtout que Vettel lui fera pas le cadeau de lui offrir une. Hein. Ça, je pense qu'il peut penser sur sa tête. Hein.
Il va y repasser longtemps quand même à la Malaisie. Hein.
C'est vrai que.
C'est. Voilà.
Et donc, à la première place.
Et qui est-ce donc?
Alors, mon dictionnaire de Spermer.
Non, mais c'est bon, Sébastien, quoi. C'est bon que le titulat, les.
Non, il peut encore égaler le record d'Ascari.
Oh, putain. Laisse-en un peu aux autres, quoi. C'est.
Non, mais c'est effrayant.
Voilà.
Non, mais c'est en même temps, tu te dis, bon, le bonhomme, voilà. Et en même temps, ça a un côté effrayant. C'est comme Singapour, quoi. Il ridiculise les autres, quoi.
Et pourtant, on n'a pas l'impression qu'il attaque cette fois-ci. À Singapour, on a l'impression qu'il pousse à fond parce qu'il y a les safety cars qui font que là, c'est, enfin, c'était des instructions de Guillaume Roquelin. C'était, creuse l'écart progressivement. Donc, du coup, mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'à un moment, tu le vois, il est 10 secondes devant les autres. Et genre, une dizaine de tours plus tard, tu regardes l'écart, mais attends, il y a 30 secondes, là, déjà. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et c'est ça, le truc. C'est que, en plus, faut se dire un truc. Il y a 30 secondes en gérant.
Oui. Et, je veux dire, il y a les 30 secondes, elles sont toujours à la fin. Donc, il a vraiment géré sur la fin. Donc.
Dans les faits, quand tu regardes le tableau de la course, tu te dis, bon, ils sont 13 dans le tour, classique. Putain, s'il avait été à fond, mais,
Non, c'est... Voilà, enfin, je suis pas le fan absolu de Vettel, mais j'ai rien contre lui non plus. Là où certains autres pilotes ont plus tendance à m'énerver, mais
on peut qu'applaudir. Hein.
Tu peux pas ne pas dire waouh quoi. T'es obligé, même si c'est un côté désolant, parce que on est fin de saison, enfin, et que ce qui est assez dramatique, c'est de se dire que bon, d'accord, les pneus ont aidé, mais globalement, même l'an dernier, Red Bull fout une valise aux autres en fin de saison, et que enfin, c'est donc forcément que même enfin ici le règlement va changer en 2014, mais de 2012 à 2013, fin 2012 à McLaren était pas mal, mais Red Bull était quand même déjà toujours dans le coup, et tu te dis qu'ils ont déjà une avance sur la saison d'avant, fin de l'année précédente quoi, c'est terrible. Et ici, quand tu vois les mecs comme Ross Brawn qui font ouais, Red Bull ils vont encore être devant en 2014,
ouais.
C'est de nouveau un côté, c'est ce que dit Thibaut Larue, n'a pas arrêté de dire de toute la course et encore aujourd'hui sur son blog, c'est que font les autres, quoi. Les autres, ils ont, t'as l'impression qu'ils sont résignés. Et déjà, dans les propos de Ross Brawn sur 2014, t'as déjà cette impression-là, quoi. Ah ouais, Red Bull va être imbattable, on va essayer de faire deuxième.
Pas assez bon, tout simplement.
C'est dramatique. Quoi.
Alors, tu fais que se compare, justement, avec Schumacher qui collait un tour au deuxième. Oui, hein, je pense que s'ils étaient allés à fond, ils foutaient un tour au deuxième, hein.
Ouais. Par contre, sincèrement, Tu sens, j'ai l'impression que le Vettel après quatrième titre est beaucoup plus détendu quoi.
C'est ce qu'il y a de plus effrayant.
Mais oui, mais et du coup, moi c'est donuts à la fin. J'ai trouvé
Weber
ça
aussi
génial.
A fait des donuts.
Weber aussi en a fait. Ouais. On l'a moins vu, mais sur le coup, mais après il en a fait aussi. Faudrait pas qu'il le fasse à chaque course.
Ah oui.
En Inde, c'était sympa parce qu'il fêtait le titre. Ouais. À Abu Dhabi, c'est sympa parce qu'il refuck FIA et c'est très drôle.
Ouais.
Faudrait pas qu'il nous les refasse à Austin et à Interlagos, hein.
La FIA qui décide cette semaine que non, c'est bon cette semaine.
Bah oui, enfin écoute.
Merci.
Voilà.
La logique
et puis même sur le podium, il est. Puis même sa réflexion, je crois que c'est.
Là, il était comment le podium,
qui lui dit rentre la voiture cette fois-ci.
Dis-nous Ben, comment il était le podium? Parce que nous on l'a pas vu en France.
Enfin, si, mais par des moyens détournés.
Oui.
Tu parles du podium ou l'interview après? Parce que l'interview après on l'a pas non plus nous.
Le podium.
Mais non, le podium.
Nous ça a coupé juste après. Il y avait le tennis à passer.
Mais c'est même quand Roquelin lui dit de rentrer la voiture et qu'il lui répond oui je vais citer Kimi, je sais ce que je fais quoi.
La conversation est énorme.
C'est génial.
Moi, sur mon compte Twitter, je l'ai mise, parce que je saurais pas vous la resituer là, mais c'est énorme. Il y a même Horner qui met son grain de sel.
Oui, c'est ça, et Horner lui, parce qu'il sait très bien qu'il va pas rentrer et qu'il va aller faire de nonos. Donc en fait, Roquelin lui dit, cette fois-ci, tu rentres la voiture dans la voie des stands, et Vettel lui répond, oui, je vais citer Kimi, je sais ce que je fais.
Et Roquelin lui fait, j'ai des preuves du contraire.
Lui dit, oui, et Horner lui dit, cette fois-ci, l'amende, ce sera pour toi. Donc, Mais je pense que Vettel, voilà, c'est quelqu'un qui est très concentré sur ce qu'il fait, et que là le titre, il est joué, il l'a, et que là maintenant il se fait vraiment plaisir. Quoi. Donc que ce soit sur la piste, dans ses déclats, il a plus la pression du titre.
Et encore sur la piste, il continue à se faire, c'est-à-dire que Red Bull lui laisse pas l'abri de libre encore. Enfin c'est.
Non.
Roquelin continue son travail de modération sur son pilotage, sur lui rappeler. enfin Roclin continue son très bon travail, parce que au final Vettel c'était un peu un chien fou à une époque, et finalement il l'a transformé en empereur, j'ai l'impression, quelqu'un de très posé, ouais. Et c'est impressionnant, je trouve.
Mais et pour rebondir sur ce que Dino dit sur le chat, c'est vrai que les donuts en soi sont pas interdits, ce que tu dois faire c'est ramener la voiture au stand, et c'est ce que Vettel a dit, je crois que c'est dans l'interview du podium, c'est ouais le donuts, mais j'ai ramené la voiture au stand cette fois-ci,
mais donc, ça c'est pas de problème. C'est la FIA qui interprète à chaque fois son règlement comme elle le veut, parce que c'est la règle dit que tu dois ramener la voiture au stand sans délai inutile. Tu peux considérer le fait de faire des donuts comme un délai inutile. Enfin, c'était autant pénalisable.
Cette semaine,
que pas pénalisable.
Voilà. Cette semaine, pour la FIA, ce n'était pas un délai inutile.
La semaine dernière, il n'avait pas ramené la voiture. Ça ouvre quand même une jurisprudence un peu dangereuse quand même. Je veux pas faire le père la pudeur, parce que bon, c'est des belles images, mais en même temps, on a dit la même chose du retour en taxi d'Alonso et de Weber. C'est des belles images, mais c'est quand même c'était quand même dangereux. Là, il faudrait quand même, ça a été plutôt le cas, mais il faut les faire dans des bonnes conditions de sécurité, quoi, là où il n'y a pas de commissaire, etc. Parce que si tu commences pénaliser comme la FIA l'a fait là, tu vas te retrouver avec 20 voitures qui font des donuts à la fin de la course, quoi. Enfin, c'est pas non plus souhaitable, quoi.
Et puis,
ça va rendre des images qui restent hors du commun, communes. Parce que moi, voir des donuts à la fin d'une course de NASCAR, ça me fait plus rien, quoi. Je le vois chaque semaine, finalement.
Ouais, mais c'est ça. Faudrait pas que ça devienne une habitude. C'était sympa en Inde, et ici, c'était sympa aussi parce qu'il y avait la pénalité avant. Il le fait aux deux prochains Grands Prix, ça aura pas le même impact. On est totalement d'accord. Doit rester exceptionnel.
C'est ça ou le doigt, hein. Faut choisir, les gars.
Mais tu sais que je crois que c'est justement en Inde, on lui avait demandé de pas le montrer, le doigt, parce que ça choque certaines personnes.
Ouais, oui, pareil.
Et si je me souviens bien, Prost aussi préférerait qu'il le montre pas. Bon, pas compris pourquoi, mais... c'est vrai, comme dit Dino, le fameux Polish Lap pour le cinquième titre. Polish Lap en NASCAR, c'est le pilote qui fait le tour au ralenti à un sens inverse du circuit. Polish Victory Lap.
Mais parce que voilà, Red Bull, ils sont gentils, ils font une vidéo pour fêter le titre de Vettel, le titre constructeur des donuts sur un immeuble, enfin sur un
piste d'un hôtel,
un héliport, un hôtel. Ils font ça avec Coulthard. Bon, écoute, les mecs, j'ai rien contre David Coulthard, mais bon.
Mais
c'est
oui,
pas lui qui a fait gagner
il vaut mieux
titres, quoi.
Que ce soit Coulthard qui tombe dans le vide que Vettel ou Weber.
Mais oui, Lord Phoenix démarre aussi en train de faire des donuts. Oui. Bon, après, il faut que les voitures restent en un seul morceau, c'est un autre problème. Mais...
voilà. Donc là, c'était sympa, mais.
Alors au classement. Eh bien, messieurs.
Devant champion.
Ce soir, 5 novembre 2013, je peux dire que
22h27.
Nous avons notre champion du SAV 2013.
Guido Van der Garde. Bravo.
Ouais, oh. Non, c'est Sébastien Vettel qui est à 314 points, tandis que Alonso, qui est assuré de la deuxième place, est à 239.
Ah oui, les autres sont encore plus loin d'Alonso. Enfin,
parce que Hamilton est à 180. Oh là là. Et Raikkonen à 177. Normalement, la troisième place, ça devrait être entre ces deux-là, puisque en cinquième place, on a Massa qui a 149.
C'est encore possible
pour Massa, mais normalement, je pense que la troisième place, ça sera Hamilton ou Raikkonen.
Rien que Massa cinquième, c'est vraiment la preuve qu'il y a finalement très peu de pilotes qui nous ont impressionné cette année, quoi.
Par contre, au niveau du classement des équipes, Red Bull est à 459, mais Ferrari est à 388, Lotus à 323 et Mercedes à 315. Qui manque encore des points pour Red Bull, même si c'est
ça va
bien
venir.
Engagé normalement.
Ça va venir. C'est la faute de Weber.
On va passer au fait marquant, peut-être d'abord au drive-thru. Avez-vous des drive-thru, messieurs?
Voilà, me lance pas.
Alors je vais commencer par le mien, hein, petit drive-thru traditionnel. Je crois que ça fait longtemps qu'on en avait pas parlé. Non, arrêtez les doubles zones de DRS avec double activation. Un dépassement, c'est chouette. Bon, un dépassement sous DRS, ça peut être un peu artificiel. Mais un dépassement artificiel sous DRS qui est contré automatiquement par le même dépassement, mais en sens inverse, parce que forcément le type qui était derrière, arrêtez, mettez qu'une zone de DRS à Abu Dhabi.
Ah ouais, non, mais c'est pas possible, quoi. Moi, ça m'a énervé aussi.
Ou alors, ne mettez qu'une zone de calcul, comme ça, le type, il double sur la première zone, et puis il refout une seconde sur la deuxième. Mais, Arrêtez.
Non, mais ils comprendront dans 25 ans.
On le disait déjà il y a 2 ans.
Sans doute. Mais oui. Alors, on le répète parce qu'il change pas. Donc voilà.
Mais d'ailleurs, au Canada, il y en a qu'une de zone de DRS maintenant.
Maintenant, oui, il y en a plus qu'une.
Plus, pourquoi ils ont pas fait pareil à Abu Dhabi?
Mais c'est ça le truc, Jinji, c'est que tu copies Mandarin Road il y a 2 ans. C'est exactement ça.
Mais je n'en doute pas.
C'est totalement. Enfin bref.
Mais comme ils ont pas bougé en 2 ans, bah voilà.
Vas-y Ben, après ça va être long.
Bah ça dépend si j'ai pas envie qu'on ait le même.
Voilà, comme dit Lord Phoenix, une seule zone de détection. À la limite, voilà, une seule zone, mais 2 zones de DRS. Mais une seule zone de détection.
Bah, si on a le même, si Ben, je te compléterai. Hein,
on peut avoir le même ou pas? Non, moi, c'est globalement, c'est les autres, quoi. C'est dramatique de cette impression que... Mais déjà en Inde, c'est les propos d'un Rosberg qui font « Ouais, non, on va essayer d'être le meilleur des autres, quoi. » Donc c'est, t'as l'impression qu'ils vont même pas chercher à aller chercher Vettel et Red Bull parce que de toute façon pourquoi se fatiguer quoi. C'est sûr qu'avec des mentalités pareilles tu vas pas loin quoi. Enfin t'es quand même censé être au plus haut niveau de la compétition automobile. Certains ne seront pas d'accord, ça se discute. Il y a d'autres grandes disciplines en sport auto, mais c'est quand même une des grandes disciplines du sport auto et t'es censé avoir les meilleurs pilotes, les meilleurs compétiteurs. Et là, bon pilote sans doute, mais compétiteur.
Le truc c'est qu'ils franchement. Ils ont l'air d'attendre la faille, mais ça fait 4 ans qu'on attend la faille chez Red Bull.
Oui, mais il faut la provoquer aussi la faille.
Oui, c'est ça, voilà.
Si tu laisses les mecs devant dans leur zone de confort, forcément qu'ils vont continuer à gagner. Si tu les pousses pas à prendre des risques. Et pour les pousser à prendre des risques, il faut que toi-même t'en prennes. Alors, forcément, ça marchera peut-être pas à tous les coups. Mais peut-être qu'un jour, ça marchera plus chez eux non plus, parce que chez Red Bull, ils vont être sous pression et qu'ils vont devoir faire une connerie. Ils vont devoir prendre une décision, ils vont devoir faire un choix, ils vont devoir prendre des risques eux aussi.
Ils vont devoir rouler plus fort et taper dans la fiabilité qui est le point faible. S'il y en a bien un, c'est la fiabilité chez Red Bull.
Mais le pire, c'est que Rosberg le dit. Après les qualifs, il est content de faire. Il est troisième, c'est ça. Hein, il est content parce que Weber, de toute façon, le départ, c'est pas top. Et puis peut-être que la fiabilité. Mais pousse-les à faire des à taper dans leur machine. Tu le fais pas. Alors forcément, ils restent devant. Ils sont pépères. Et moi, les propos de Ross Brown ont été relayés pour le contexte, etc. Mais enfin, j'ai juste lu sur 2014. Moi, ça m'énerve parce que t'as l'impression que c'est déjà joué, quoi. Et c'est pas bon en même temps Ross Brown on sait pas où il sera l'an prochain hein oui. mais quand même moi dans le contexte c'est vrai que ça, moi ça m'énerve même si la victoire de Vettel voilà elle est éclatante mais
Gus,
allez j'y vais. Moi j'ai un drive thru pour les fanatiques des théories du complot en tout genre. Alors je vais surtout parler de la traditionnelle connivence entre la FIA et la Ferrari, même si on a eu plusieurs versions ce week-end. Lotus qui saboterait la voiture de Raikkonen, le sabotage de Weber aussi un grand classique. Il y a même carrément des gens qui ont dit que la FIA était clément avec Grosjean en Hongrie parce qu'il était français comme Jean Todt. Bon, on parle bien du même Grosjean qui a été suspendu une course par la FIA. Bref, le truc c'est que c'est bien beau de dire ce genre de choses, le problème c'est qu'à un moment il faut prouver ce qu'on dit, il faut apporter des preuves de cette connivence ou s'il y a de la corruption ou quelque chose dans le genre. Parce que en tant que tel, qu'une décision tombe plutôt d'un côté comme un autre, on en a parlé tout à l'heure, finalement il y a des gens comme moi qui pensent que le fait que personne soit pénalisé c'est pas plus mal, c'est plutôt logique, même si la FIA le justifie mal, ça peut se justifier correctement. Et du coup, enfin, qu'une décision tombe d'un côté ou d'un autre, avec l'inconstance qu'on connaît de la FIA à bien juger une situation, des situations similaires, à pas donner la même pénalité, c'est jamais une preuve. Parce que la FIA, finalement, c'est assez reconnu par tout le monde maintenant, n'est pas forcément un bon régulateur et un bon une bonne fédération pour s'occuper du championnat. Du coup, il faut se rabattre sur des preuves directes, que ce soit des preuves de corruption, de jeu d'influence ou d'autres choses. Et jusqu'ici, contrairement à ce qu'on voit dans d'autres fédérations sportives comme la FIFA ou l'UCI ou même un truc qui a fait grand bruit après les Jeux de Londres sur la boxe, parce que ça a été révélé par France Télévisions, jusqu'ici on n'a pas de bruit de fait avéré de corruption à l'intérieur de la FIA ou d'autres choses. Les seuls faits établis de connivence un petit peu entre Ferrari et la FIA, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est ces histoires de droit de veto sur les règlements, ça c'est vrai. Même moi qui suis fan de Ferrari, je suis le premier à le déplorer et à en avoir parlé dans l'émission. Sinon, à part ça, les seuls avantages qu'a Ferrari, ça fait partie des accords commerciaux entre entre la FOM et Ferrari, des avantages qui sont pas forcément exclusifs avec Ferrari, parce que McLaren, Red Bull et Williams sont aussi des avantages du même ordre. Du coup, affirmer ce genre de choses sans preuve, bah ça tombe dans la diffamation, c'est ça le problème. Et je me permets juste de rappeler que quand on le fait publiquement, que ce soit sur internet ou dans un journal ou par exemple sur Canal+, bah c'est un délit passible de 45 000 euros d'amende. Et même en privé, si vous avez une discussion privée et que vous diffamez quelqu'un, bah c'est une contravention qui donne suite à une amende de 38 euros. Donc voilà, il faut apporter les preuves de ce qu'on dit, et c'est encore plus choquant d'entendre un champion du monde de la discipline affirmer de but en blanc en direct à la télévision ce genre de choses. Surtout quand on sait qu'il a été champion l'année même où son adversaire, qui était un pilote Ferrari, a été exclu du championnat par la même FIA qu'il critique et qu'il taxe de clémence avec Ferrari. La même FIA qui avait exclu en son temps Schumacher des qualifications en 2006 à Monaco après ce qui se soit parqué à la rascasse, etc., etc. Donc voilà, c'est bien beau les théories du complot, maintenant il faut que ça se base sur des preuves, et jusqu'ici il y a aucune preuve que la FIA et Ferrari soient en connivence d'aucune manière que ce soit, à part le droit de veto qu'aurait Ferrari sur des changements réglementaires. C'est la seule chose.
Ils jouent pas forcément leur sa faveur alors tout de suite.
Oui, d'ailleurs on n'a aucune preuve que Ferrari ait jamais usé de cet artifice sur la confection des règlements qui viennent. Quoi. Voilà. Donc jusque là, voilà, ça c'était mon drive-thru. Ça va, j'ai fait court.
Oui, mais tu sais, hein, tu peux dire que c'est Jacques Villeneuve, hein. Tu ne le diffames pas en citant son nom. Hein.
Je l'ai dit, non?
Non, t'as juste dit un champion du monde.
Bon, en même temps,
ouais, genre, j'ai oublié. Non, je ne dis
pas son nom, je risque d'avoir des problèmes.
Non, c'est un oubli. J'ai aucun problème avec ça. C'est un Drive 3 à Jacques Villeneuve, mais c'est plus universel que Jacques Villeneuve. On a eu la preuve dans les commentaires sur Fan F1 et même dans certaines chroniques sur Fan F1. Donc.
Sur Internet et tout ça, c'est le royaume des complots. Ça,
oui, voilà, mais c'était d'autant plus chaud. Je veux dire, ça, on a l'habitude des gens qui disent que la FIA, c'est Ferrari International Assistant. Ça va, c'est un jeu de mots qui commence à être éculé, il va falloir trouver autre chose. Par contre, que ce soit subodoré par Villeneuve ou même des chroniqueurs sur certains sites, bah voilà, c'est un peu plus choquant, quoi.
Je vous propose de revenir sur les faits marquants. D'abord sur les faits marquants du Grand Prix d'Inde. Vous avez été 97 à voter. Merci de même, merci à tous ceux qui ont voté pour le top 10. Il y avait 4 propositions cette semaine. Est arrivé 4e avec seulement 3 petits votes. Vettel, 2 petits tours et puis s'arrête. 3,09%. Est arrivé 3e, et comme quoi, hein, il avait dit que le fait que ça soit plus long, les gens le remarqueraient et tout. Et bien non, hein. La conversation radio où Alan Perman dit Raikkonen un gros mot, et Raikkonen dit aussi un gros mot, mais il ne s'insulte pas, et à la fin, Boulier s'excuse, n'a récolté, entre guillemets, que 24 votes. 2e avec 32 votes, c'est Vettel, 6 à la suite pour un 4e titre de suite, et en plus des donuts, mais, est arrivé premier avec 38 votes et 39% des voix. Grosjean, ce fut un peu plus compliqué cette fois, mais ça continue. Monsieur, alors, je vous laisse, parce que j'ai gagné, donc voilà.
Ça va, alors, des faits marquants, hormis Vettel, l'extraterrestre Vettel, enfin je veux dire, il est complètement sur notre planète, t'es obligé de le mettre. Maintenant, pour en trouver d'autres, bonne chance, les amis.
L'extraterrestre Vettel, c'est ça?
Ouais, bah oui, enfin, là, il était tout seul.
Oui. Gus Gus?
Elle un peu de provoque. Kimi, virgule, le cinglé du premier virage.
Ouais, mais pas mal. J'aime bien ça.
Ah, fait chier, merde, je voulais.
Hamilton, Dieu était en vacances.
Non. J'aimerais bien mettre un truc avec Alonso.
Bah, Alonso essaie de faire saute mouton avec Vergne.
Ouais, c'est pas mal, ça.
Bah, tu peux le tourner autrement, mais l'idée là.
Ouais.
Alonso copie Schumacher
et si
son
tu gagnes, je veux la moitié du trophée. Je prendrai le champagne.
Apprends la règle des priorités avec Vergne.
Ouais. Alonso révise le permis de conduire avec Vergne.
C'est un peu long, j'y ai pensé, mais je voulais mettre un truc avec le permis.
Alonso, le permis de conduire, la priorité pour les nuls.
Alonso double métro par la gauche.
Alonso ne sert pas assez à droite.
Voilà, Alonso apprend les règles des priorités routières avec Vergne.
Révise ton code de la route avec Fernando.
Avec Fernando.
Donc, cette semaine, pour le fait marquant du Grand Prix d'Abu Dhabi. Oui, il y en a eu quand même des faits marquants. Vous aurez le choix entre l'extraterrestre Vettel, Kimi, le cinglé du premier virage, ou bien Alonso apprend la règle des priorités routières avec Verne.
Un bien beau sondage.
Oui. Messieurs, vous avez une lourde tâche cette semaine, vous le savez.
Ah oui.
Puisque c'est l'heure du concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Vous souvenez-vous de la question qui avait été posée cette semaine?
Non, j'ai perdu le fil.
La question était, Michael Schumacher vient de perdre le record du nombre de points marqués en F1, battu par Fernando Alonso et son fameux casque.
Wow.
À l'issue de quel Grand Prix s'était-il emparé de ce record et aux dépens de qui?
Aux dépens de Prost, ça, j'imagine.
Tout à fait.
Alors,
Prost a marqué 798,5 points au cours de sa carrière.
J'imagine c'est autour des années d'année 2000.
Oui, aux autres de années 2000.
Bon, après, quel Grand Prix exactement? Mais j'ai pas cherché.
Non, non. Même pas une idée en termes d'année, ne serait-ce que l'année.
Ah, c'est pas 2000 exactement?
Ah non, c'est pas 2000 exactement.
2002.
Ouais, 2001, 2002, mais c'est pas plus long. Moi, je dois pas ça beaucoup
exactement,
plus loin.
Exactement, puisque si Michael Schumacher a gagné 1566 points, il a dépassé les 798 points et demi de Prost au Grand Prix du Japon 2001. Donc en effet, oui, il nous le dit, ça devait être son sacre en 2001. En tout cas, fin de saison 2001. Où il totalisa en tout 801 points.
Oh non, en 2001, il titrait beaucoup plus tôt, parce que 2001, c'est le Japon, c'est la dernière course.
Oui. Bah, en tout cas, c'est la dernière. Et donc, on a eu 3 réponses, mais 2 bonnes réponses, parce qu'on a eu une réponse 2006. Amitié aurait eu que l'année, j'aurais pu l'accepter, mais là, l'année est pas bonne. Donc, vous aurez 2 choix, messieurs. Et n'oubliez pas, cette semaine, c'est une casquette Kimi Raikkonen 2013 qui est en jeu.
Voilà, responsabilité maximum.
Oui, parce que bon, souvenez-vous, il avait quand même gagné l'an dernier. C'est vrai que cette année, c'est peut-être un petit peu moins parlant, mais voilà.
Hein. Il était là cette année.
Okay. Il était là. Pareil qu'il était là.
On l'a vu quitter le circuit très tôt pour éviter les embouteillages.
C'est vrai.
Écoutez bien, messieurs. Quel est le nom du seul pilote né au Texas à avoir terminé un Grand Prix de Formule 1 sur le podium?
Mm-hmm. En même temps, ouais, il y a pas trop de pilotes américains, donc.
Ouais, mais il y a l'Indy 500, donc c'est ça qu'il a fait.
Ou bien.
Ah ouais.
Vettel fut sacré sur le circuit de Boud le week-end dernier. Abu Dhabi fut déjà le lieu de son sacre en 2010. Mais quel circuit a sacré le plus de pilotes?
C'est plus intéressant, mais j'ai peur que ce soit un peu facile. Parce qu'il faut pas donner le détail, j'imagine.
Bah, faut dire les circuits. Enfin, faut avoir l'expérience des gens qui envoient les réponses. En général, les gens envoient le détail, même quand on ne le demande pas.
Ouais, faut voir ça.
Rappelons que pour la semaine prochaine, c'est un t-shirt Lewis Hamilton qui sera en jeu.
Donc, la première question sur le pilote texan, et la deuxième, c'est sur le. Ouais, donc, quel circuit. Les circuits, ça m'a l'air un peu facile.
Moi, plus de pilotes.
J'aurais une réponse qui.
Mais, enfin, vous n'êtes pas obligé de choisir quelque chose de compliqué, c'est.
Ah oui, oui, bien sûr.
Et Dino le précise, on a déjà fait une chronique sur ça il y a quelques années.
Sur quoi?
Bah, sur les circuits.
Ouais, sur les circuits.
Qui avaient gagné le plus de grands. Parce que, en effet, les pilotes texans, bon, c'est.
Puis en plus, si tu prends l'Indy 500, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut compliquer les...
Ouais, j'ai pas envie de faire compliquer, moi. La deuxième question m'intrigue, parce que j'ai l'impression que la réponse est facile, mais que c'est pas si simple, finalement. T'en penses quoi, toi, Ben?
Moi, j'aime bien aussi la deuxième. En fait, elles sont toutes les deux... Y a pas une plus tordue que l'autre. Mmh. Ouais, mais bon. Vu la dernière phrase de Dino, ça complique la chose. Pour la première...
moi, je serais plutôt sur la deuxième.
Nous deux à décider, c'est ça. Shinji,
ah non, moi je les vois les questions, donc j'ai pas le droit.
Ouais, on va dire la deuxième aussi. Bah. De toute façon, si je dis la première, on n'est pas avancé, donc.
Ah, c'est Ben le plus malléable dans l'équipe.
D'accord.
Allez,
donc vous dites la deuxième.
Oui.
Donc sur les circuits.
Oui.
Ah. Eh bien, bravo Totor.
Bravo,
c'est con, il est parti en plus.
Eh oui.
Ah non,
on change pour la première. Ah non, il est encore là, j'ai rien dit.
Alors la question sur les pilotes nés au Texas, à Dinoé, tu vois, il aurait choisi la première, mais bon.
Il est pas là, il a pas son mot à dire.
Voilà.
Tu serais venu, j'aurais dit la première, t'aurais dit la première, on aurait eu la première, c'est tout. C'est ta faute. Les absents ont toujours tort.
Alors donc donc c'est Alan qui avait proposé la question donc sur le seul pilote né au Texas à avoir terminé un Grand Prix de F1 sur le podium. Et donc la réponse qu'il avait donnée, c'est Johnny Boyd lors des 500 miles d'Indianapolis en 1958. Alors il m'a aussi cité une liste de pilotes nés au Texas qu'il a trouvé. Alors j'ai pas cherché, mais je suppose que la plupart aussi devaient être des pilotes d'Indy 500. Judd Larson, meilleur résultat 8e. Tom Jones. Je ne pense pas que ce soit le chanteur, mais bon, voilà, il y a un Tom Jones. Jim Hall. Un certain Eddie Foyt, un type pas très connu dans l'histoire du sport automobile américain.
Ah, il n'a pas fait de podium.
10e place. Jim Hall, 5e. Johnny Boyz, 3e. Lloyd Ruby, 7e. Là aussi,
attends,
un type pas très...
Oui. Johnny Boyz, 3e?
Oui.
C'est un podium, ça aussi.
Ah, bah oui.
Ah, mais c'est lui, d'accord, oui. Pardon. Le gars ne suit plus rien.
Un certain Carroll Shelby, encore un type pas très connu. Oui. Abe Rose, alors, c'est marqué joie, mais comme c'est en anglais, je pense que c'est plutôt joy.
Ouais.
Hein? Cheatwood.
Joie de vivre.
Rendez-vous.
Voilà, c'est ça. Voulez-vous coucher avec moi?
Le SAV s'internationalise.
Joie. Et Cecil Green. Donc, c'est tous ceux qu'il a trouvé, né au Texas.
Ouais, bah moi, je reste sur mon choix, de toute façon.
Néanmoins, maintenant que j'ai la réponse, je voudrais qu'on change.
Donc, je vous rappelle la question auquel il faudra répondre sans oublier de mettre à votre tour une nouvelle question et sa réponse. Vettel fut sacré sur le circuit de Boud le week-end dernier. Abu Dhabi fut déjà lieu de son sac en 2010. Mais quel circuit a sacré le plus de pilotes? Ça n'a pas l'air exceptionnellement compliqué, il suffit de chercher un petit peu. Donc si vous souhaitez répondre, il suffit de envoyer un mail donc à concours@savf1.fr. La semaine prochaine, rappelons-le, il y aura un SAV, mais ce sera un magazine. Comme d'habitude, il y aura le répondeur. Je n'ai pas encore regardé le répondeur pour savoir si Adelin avait déjà posé une question, mais on ne sait jamais.
Préparons-nous.
Peut-être qu'il va vraiment envoyer sa question sur la Formule E.
Bon, on lui a répondu.
Ben oui. S'il l'envoie, on lui répondra dans le SAV Live en disant « Regarde sur le site ».
Oui.
Attends, on a quand même appris un truc de dingue, hein. Parce que bon, il y avait déjà l'équipe IDAM, là. Parce que la Formule E fait quand même tout pour qu'on, parce que bon, ils essaient quand même qu'on les prenne au sérieux. On est d'accord, hein.
On va vraiment en parler, hein.
Attends, c'est quand même le retour de Super Aguri.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié.
Ouais.
Une série où il y a Super Aguri et une équipe qui a un nom de fromage.
Pire que le GP.
C'est vachement sérieux, quoi.
Rapax, Barwa, Dax, des noms bizarres. Dragon Racing aussi.
Minardi qui va revenir.
Va savoir.
Arrête. Ah.
Donc, si vous souhaitez envoyer une question au répondeur, soit c'est par écrit, par mail à répondeur@savf1.fr, ou bien via le module audio qui est présent sur le site savf1.fr. Au niveau des participations pour les prochaines émissions, ça s'est bouclé jusqu'à la fin de saison, puisqu'on a eu un très bon récapitulatif de Dino, donc
N'appelez plus.
Voilà, n'appelez plus pour cette année.
Les standards sont fermés. Oh oui, à Cherté. Bien, pourquoi pas retour d'à Cherté en Formule A.
Oh l'horreur. Remarque, après, une série monotype, ça va, ils sont tranquilles.
Oui, bah comme Super Aguri.
Oui.
Sinon, messieurs, la prochaine course aura lieu aux États-Unis.
Qui est pas un circuit dégueulasse.
Non, non, non. Est-ce que vous avez des pronostics pour la prochaine course?
Ouais, j'ai bien peur que...
Vettel encore?
Tu parles de la deuxième place, là.
Oui, oui, bien sûr, oui, c'est...
Deuxième.
C'est sous
deuxième? Ouais, deuxième Grosjean.
Grosjean, ouais.
Je sais pas. Oui, parce que j'ai envie de dire Rosberg. Il m'a l'air bien, le petit, là, en ce moment. Deuxième, Rosberg. Tu veux le podium complet, peut-être?
Alors, Lord Phoenix, tu dis Vettel, mais Vettel en première place ou en deuxième place? Parce que deuxième place, là, c'est innovant. On vous rappelle, comme d'habitude, que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, avec le compte Twitter officiel du SAV, @le SAV F1.
Ouais, et je crois qu'en une semaine, on a gagné à peine un follower. alors que c'est quand même.
Pourtant, on l'utilise, hein.
Ouais.
On l'utilise. On fait de la pub. Ouais. Suivez-nous, bordel.
Mais oui.
Sinon, vous pouvez trouver les liens avec nos comptes Twitter perso sur la page d'accueil du SAVF1, SAVF1.fr.
Tout à fait.
Vous pouvez évidemment suivre aussi.
Voilà. Oui.
Vous pouvez suivre les deux.
les huit.
Oui, enfin, je veux dire, le compte.
Oui, huit.
Des chroniqueurs et le compte officiel.
Messieurs, on arrive à la fin de cette émission.
Oui.
Et n'oublions pas que l'AF1 sur Internet, d'abord, c'est sûr.
J'allais dire, fanf1.com.
C'est sûr, ouais. fanf1.com.
Parce que le SAV de l'AF1, c'est...
Le rythme des podcasts. D'ailleurs, retournez sur Podcast France, nous mettre 5 étoiles.
Oui, c'est vrai, on est 6e, je crois.
Ou sur iTunes.
Aussi, oui, mais là, je sais pas. Je sais pas combien on est sur iTunes.
On a 28 ou 29 votes en 5 étoiles. Toujours 5 étoiles.
Oui.
Logique. Voilà, c'est avant les spécialistes aussi, maintenant. Hein.
Cool.
Ah oui.
Eh ouais. Voilà. Et on est les Vettel de l'analyse.
Oula.
On prend tout le monde de test.
Je m'avancerai pas sur ce point. Je crois qu'il y en a là qui font, je crois qu'il y en a qui font le lundi soir.
Et n'oubliez pas, mais non, c'est sur savf1.fr où il y a les lives. Les lives où, quand il y en a, mais on en fait souvent quand même en sauvant des lives. Quasiment toutes les émissions.
Ouais.
Alors, messieurs, là, il va y avoir de la recherche. Parce que normalement, c'est le truc à Dino, hein. Le truc un peu incompréhensible et tout, que personne ne comprend, mais nous, on n'est pas des experts comme Dino.
Ouais, enfin bon, toi, tu nous as quand même imposé le mot de la fin pendant un long moment, donc t'es pas mal placé pour critiquer. Voilà. Dans tes dents.
Est-ce que vous avez des proverbes, des citations, des... Parce que moi, j'ai des proverbes à la con, hein. J'ai tapé proverbes à la con sur Internet, je peux vous en sortir, ça n'aura aucun rapport avec la course.
J'ai pas eu le temps de trop faire des recherches. J'aurais bien trouvé un proverbe du cru, quoi. Proverbe émirati.
Ouais, je sais, aussi. Ben, peut-être un proverbe belge que t'aurais sous la main.
Quand elle vend la frite, qu'elle va à l'eau, qu'elle se casse ou... Bref.
Non. Quand, ou alors, tu pourras en inventer un. Les adversaires de Vettel pleurent deux fois quand ils arrivent sur le circuit et quand ils repartent.
Mais c'est bon ça en fait.
Bah vas-y, lance le générique du coup.
Je crois qu'on va vous laisser sur ça. Allez, ciao.
Salut.